Il y a des mots qui me font marrer, je sais pas pourquoi. 12, est, pour moi, me fait rire.
On n'est pas là pour rigoler, mais pour faire rigoler.
Tu t'en fous parce que t'es personne.
C'est l'histoire d'un mec.
Et ben, tu vois, moi j'ai plus peur du regard des gens que je connais que du regard des gens que je connais pas.
Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.
Pour du stand-up, genre c'est fou.
Je pense qu'on aimerait tous avoir des analyses comme ça servies sur un plateau.
On peut commencer à dire bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et bienvenue du coup dans ce premier, je sais pas si j'appelle l'épisode numéro 1 ou l'épisode 0, le pilote du podcast Servi sur un plateau.
Et bah, j'ai envie de dire si c'est si ça s'appelle l'épisode 1, bah bienvenue dans l'épisode 1. Et si ça s'appelle l'épisode 0 pilote, bah bienvenue dans le pilote.
Et pourquoi pas le moins 1 ? Personne n'a jamais fait un épisode moins 1.
Il y a peut-être des raisons.
Et tu pars que sur des moins 2, moins 3.
Parce que le moins 1, je crois qu'il
c'est
remonte...
C'est un podcast à l'envers.
Et pourquoi pas 0,5.
Et pourquoi pas dire que t'es allé trop loin.
Ouais, ça va.
Voilà. Voilà, ce qui nous donne une légitimité totale sur ce qu'on va faire. Parce que voilà, l'idée du podcast d'aujourd'hui, c'est donc d'analyser le sketch d'un humoriste afin d'essayer d'y déceler ce que nous recherchons tous autour de cette table, et sûrement toi aussi qui nous écoutes, à savoir la réponse à la question du... Pourquoi c'est drôle ? Alors, bien entendu, petit disclaimer avant toute chose, rien de ce qu'on dira dans ce podcast ne constitue une liste exhaustive, ni une vérité générale. Néanmoins, si vous avez un désaccord avec nous, ou si vous souhaitez vous aussi donner votre avis sur ce qu'on va dire, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux ou les plateformes sur lesquelles vous streamez cette émission. Voilà, tout ça c'est une bouteille à la mer parce que je ne sais pas du tout comment on va pouvoir mettre ça en place.
Puis moi je dis beaucoup de merde en plus alors.
Oui, écoute Lola, tu n'apparaîtras pas dans cette émission au montage.
T'imagines l'en faire tes deux heures et t'écoutes.
Dès qu'elle a pas, il y a eu des coupures, tu comprends pas. Vous avez toi, qu'est-ce t'en... Et alors je disais du coup...
Et toi Lola, et c'est Pablo qui répond.
Et du coup, tu t'es rien.
Voilà, au-delà d'une analyse de sketch... que j'aurais pu essayer de faire tout seul dans ma chambre comme un vrai petit youtubeur, j'ai préféré inviter des invités que vous entendez depuis tout à l'heure, afin que nous puissions également débattre, disserter ou simplement raconter des anecdotes personnelles, car autour de cette table, nous sommes quatre amis liés par une passion commune qui est...
L'humour.
La scène.
T'as chacun à son truc différent.
Les blagues.
C'est plus les meubles, mais c'est pas...
Ouais, c'est vrai que... Ok. Je vais vous laisser vous présenter autour de cette table.
On s'auto-présente ?
Vous allez vous auto-présenter ?
On peut pas se présenter en comme ça ?
Ah bah si tu veux, c'est une
parce
très bonne idée.
Parce que s'auto-présenter, c'est
okay,
trop
bien. Ok, bah moi, je te présente, donc...
Autour de cette table, il y a Lola.
Voilà, Lola qui a 21 ans. Demain, 21 ans et demi. Parce qu'elle fait partie des rares gens qui fêtent leur demi-anniversaire, comme moi.
Demain, 25 janvier, du coup.
Demain, 25 janvier, oui, parce qu'on est le 24 janvier, à l'heure où on enregistre.
Mais de quelle année ? On ne sait pas, et ça c'est bon.
De quelle année ? On ne sait pas. Covid a-t-il existé ou pas ? Bon bref, cette présentation est beaucoup trop longue. Donc Lola, 21 ans et demi demain, humoriste. Tu viens de Gémenos.
Bien sûr.
Mais tu vis à Nice. Ben voilà, c'est tout.
Très bien.
C'est bien, non ?
C'est oui. Beau.
Lola, fais-nous entendre ta douce voix. T'as un truc à rajouter sur toi ?
J'ai les cheveux bouclés et c'est tout.
N'hésitez pas à aller voir Lola sur les réseaux sociaux.
Lola Mam.
Lola Mam.
Autour de cette table, il y a également Sophia. Qui présente Sophia ?
Je présente Sophia.
Vas-y, Pablo.
Sophia, qui est, bon, on le sait, hein, est l'avenir niçois. On le sait. On le sait.
Quoi
si.
C'est l'étoile montante.
L'étoile montante de l'humour,
ouais.
Qui lutte par-dessus le coronavirus pour avoir des scènes, et notamment bientôt le Printemps du Rire.
Inch'Allah.
On lui souhaite de fortes réussites. Mm. Sophia, c'est aussi des anecdotes et beaucoup d'expériences communes avec nous quatre qu'elle racontera dans cette émission. Ouais. On espère. Et Sophia Mignala, c'est avant tout une femme. Une femme pouvoir, une femme de construction.
Une femme forte.
Une femme forte.
Mm. Là, je te laisse présenter Pablo.
Bien sûr. Pablo, il a 22 ans.
Oui.
Il est humoriste, clown, mimétiste à Nice.
C'est surtout du mimétisme.
Surtout mimétiste.
Non,
il fait des blagues aussi décalées que profondes. Il a actuellement des chaussettes jaunes. Et...
Orange.
Et je pense que c'est une étoile montante aussi niçoise.
Mais est-ce qu'on ne serait pas un peu tous des étoiles montantes ?
Maman me l'a pas dit, par exemple.
Mais qui est Lola ?
Attends.
Déjà, je suis coupée au montage.
C'est une étoile montante.
Replay ralenti, s'il vous plaît, de ce qu'a dit Sophia.
C'est une étoile montante. Tu vois, c'est une étoile montante, je l'ai dit.
Elle
c'est
dit.
Vrai.
Bah, rapidement,
oui,
mais elle
mais
l'a dit.
On l'a tous dit.
Et bien sûr, Paul Verdier. Paul Verdier qui est l'hôte d'aujourd'hui, hein, et qui est le créateur même de ce podcast mondialement connu.
C'est un peu le Édouard Baird de Nice. Hein.
C'est oui, tout ça. À fait.
C'est un peu le Édouard Baird de Nice.
Tout ouais. à fait, capillairement parlant surtout.
On ne te survend absolument pas.
Non, non, non.
Paul qui est auteur, interprète, co-auteur aussi de certains.
Et très très fort à Mario Kart.
Et très fort à Mario Kart.
Très
c'est
important de le souligner. C'est
vrai. C'est un peu la voix qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait que nos parents aient. Cette petite voix-là qu'on aimerait turlupiner.
Elle a l'air de t'exciter, cette petite voix, Pablo.
Tu peux lâcher ton pénis, Pablo, s'il te plaît.
Et humoriste avant tout, hein, et t'as un beau spectacle qui s'appelle Lambda.
Qui s'appelle Lambda, exactement. On a tous un spectacle ici, sauf personne, parce qu'elle ne sera pas dans cette émission. Non, sauf Lola qui est en train d'écrire et qui travaille d'une manière différente. Mais justement, voilà, ce qui nous réunit, c'est qu'on est quatre humoristes au final.
Ouais, il y a une agression dans les escaliers, tiens.
Non, c'est juste des enfants.
C'est les voisins.
Je reconnais pas la différence.
C'est nos merveilleux voisins. On va attendre un petit peu qu'ils descendent.
Est-ce que je peux chanter une chanson en attendant?
Bof. Non.
Oui, vas-y.
Il y a deux bofs et un oui, donc non.
You got the weather. C'était Laurent Voulzy.
Du coup, aujourd'hui, donc pour analyser le sketch, j'ai choisi un humoriste assez particulier, vous le savez tous, et vous le savez vous aussi qui nous écoutez, parce que c'est sûrement dans le titre.
Gabriel Mallet.
Et non, Sophia, malheureusement.
Putain.
Nadine Morano.
Ah.
Meilleur humoriste de France.
Paul de Chavannes.
Ah, c'est pas loin.
Putain.
Il s'agit de Paul Mirabel.
Oh.
Est-ce que vous connaissez Paul Mirabel?
Ah oui.
Oui, bien sûr.
Quand même, on fait de l'humour, on connaît Paul Mirabel. Mais effectivement, tout le monde connaît Paul Mirabel. Et pourquoi j'ai choisi d'analyser en priorité le sketch de Paul Mirabel? Déjà parce que tout le monde le connaît et du coup, ce podcast pourrait parler à tout le monde. Et ça, c'est vraiment un point positif. Mais surtout parce que voilà, la première fois que moi j'ai écouté Paul Mirabel, je me suis dit, c'est cool, mais bon, il va pas trop loin. C'est genre dans le texte, c'est pas le meilleur, j'avais l'impression. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vaut vraiment? Je vais essayer un peu d'essayer de comprendre pourquoi tout le monde aime, parce que c'est quand même une particularité de Paul Mirabel, c'est que c'est une vraie étoile montante, lui.
Et ce qui est fou, c'est que c'est un peu le personnage que tout le monde a vu sa vidéo. Et par exemple, imaginons, on va retenir quelqu'un, c'est vraiment genre... Bon, le nombre de gens qui m'ont dit, putain, il y en a un, il m'a fait trop rire là, avec son frère, c'est un frigo. Tu vois, il a retenu sur ses vannes et ça a marqué les gens.
Ouais. Ouais, genre Chantal et tout. Moi, on m'a déjà dit, oui, tu sais, le mec qui ressemble à la secrétaire qui s'appelle Chantal. Je le critique pas, hein, c'est lui qui dit ça, mais...
Ah oui, non, vous allez voir.
Paul, si tu nous écoutes, je trouve que ta coupe est très jolie. Mais c'est personnel.
Qu'est-ce qui vous évoque à vous, Paul Mirabel, enfin, la première fois que vous... Enfin, est-ce que vous avez eu une expérience avec lui plus ou moins intense, pour certains?
Je sais pas si on peut en parler. Non, moi non, j'ai jamais eu d'expérience.
Non, mais la première fois que tu l'as vu, est-ce que tu t'en souviens?
Oui, je m'en souviens. En fait, tout le monde me disait, enfin, j'entendais parler Paul Mirabel. Je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir ce que c'est. Et en fait, bizarrement, j'ai beaucoup aimé. Je dis bizarrement parce que normalement, c'est pas trop mon style d'humour. Enfin, je suis pas très stand-up pur. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il fait. J'aime bien, mais on est là pour ça, je sais, mais je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'aime bien.
Bah, c'était vraiment justement toute la raison de pourquoi on fait ce podcast. Mais pour toi, du coup, Paul Mirabel, c'est du stand-up pur.
Bah, pour moi, oui.
Ouais.
Debout, un micro, des punchlines, c'est du stand-up.
C'est beau. C'est beau. Dommage parce que tu dis des choses super intéressantes, mais tu n'apparaîtras pas dans ce podcast. Donc,
C'est vraiment
et toi,
dommage.
T'as une Lola, t'as...
Moi, je crois que la première fois que je l'ai vu, c'était dans la série sur YouTube. Enfin, le docu, je sais pas comment ils appellent ça, mais deux tocards font du stand-up de Kevin Robin et Maxime, j'ai oublié son nom de famille. Mais donc, c'est deux mecs qui font du stand-up à Nantes, il me semble, et qui se filment parmi leurs scènes. Vlatikipa. Pas sa tête. C'est Paul Mirabel, mais il faisait pas de sketch, quoi, juste c'était sa tête. Donc, j'avais une vision de ok, ce gars fait du stand-up, et puis après, je pense que. Je sais plus si c'est le Jamel Comedy Club ou le Montreux ou. Mais voilà.
Ouais,
moi, j'ai accroché direct.
De toute façon, ça ouais, direct. entièrement.
Mais bon, bizarrement, je l'ai connu avant qu'il soit connu. J'étais allé voir le Whoop. Et il faisait la première partie du Whoop dans le Sud. Parce qu'apparemment, il faisait du coup toutes les premières parties du Whoop à l'époque. Et après, c'était surtout sur le Campus Comedy Tour. Où il a fait un passage que j'avais pas forcément kiffé de ouf. Enfin, je me demandais, parce qu'en fait, il y a en plus. Campus Comedy Tour, du coup, c'est l'humour étudiant et tout. Et après, tous les sketchs qu'il a fait, Montreux et tout, je trouvais ça génial. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros level up de Paul Mirabel.
Ouais, pour préparer ce podcast, j'ai regardé un peu. Déjà, il a remporté le Campus Comedy Tour, ouais. Ce qui lui a valu, et ça a été longtemps son titre phare, c'était l'étudiant le plus drôle ouais. de France. Et j'ai vu qu'il disait le level up, il vient du fait qu'il ait bossé, ouais. et joué, je crois que c'était à raison peut-être de 3 fois par soir.
Putain.
3 fois dans la soirée.
Mais je pense qu'il a dû en faire des plateaux pétés.
Genre 300 scènes en un mois, quoi. Enfin, c'est.
Tu sais qu'apparemment, il a une maîtrise du. Il a tellement fait de plateaux. Il y a des gens qui disaient que les moments les plus fantastiques de Paul Mirabel, c'est quand il est en panique devant un public. Il fait des trucs de fou.
Mais en général, c'est là aussi que même nous, on se sublime. C'est quand on joue devant. Enfin, c'est du spectacle vivant. Donc, quand on joue devant dans des gens. Et quand soit on perd nos moyens, soit on a un éclair de génie et qu'on se met à improviser ou à jouer nous-mêmes nos personnages.
De toute façon, c'est comme tout, c'est quand tu fais plein de fois un truc, t'as plus peur de le faire, du coup tu te permets des nouvelles choses. Donc plus tu fais des plateaux pétés ou plus tu fais des plateaux en général, bah du coup t'as moins peur de lâcher prise, t'as moins peur d'aller vers une impro que t'aurais pas faite, t'as moins peur de nanana, parce que t'as envie de creuser.
Et pourtant, il y a la magie de la première. Genre moi, il y a des sketchs. Qui ont jamais été aussi bons que la première fois que je les ai joués. Et je sais pas pourquoi.
T'imagines le pouvoir qu'il doit avoir, ce mec, Paul Mirabel, le pouvoir qu'il doit avoir quand il est en panique et que, par exemple, il y a des gens dans le public qui parlent plus fort que lui ou quoi. Jouer son personnage, tu sais, arrête, tu vois, il doit éclater la salle.
De toute façon, je pense que là, il a percé, mais on l'a vu percer pas à son maximum de level,
ah oui,
tu vois. Et c'est ça qui est trop intéressant. Mais c'est ça qui doit être tellement dur pour lui et tellement de pression que tu dis, ok, là, genre, il y a la France entière qui me connaît, qui pense que je suis bon, mais là, va falloir faire durer le truc et que je sois meilleur et que je continue à travailler. Parce que quand tu travailles dans l'ombre et que tu testes des trucs, tu t'en fous parce que t'es personne. Mais quand tu deviens quelqu'un, ça veut dire soit les gens ont des attentes, soit t'as le truc qui rigole parce que c'est toi et c'est pas parce que c'est ce que t'as dit qui est drôle. Donc, enfin, la pression du travail doit être différente.
Il y a un truc qui est, genre, je sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais par exemple, Paul Mirabel, il a vraiment une identité que tu prends du plaisir à voir dans un sketch de 10 minutes. Moi, je me suis toujours posé la question si sur un spectacle de 1 heure, ça tient la cadence un personnage comme ça.
Mais il a mis du temps à écrire déjà son spectacle. Enfin, moi, je l'ai connu avant qu'il ait un spectacle, vraiment.
C'est
il
son premier, là
ouais. Zèbre. Mais il avait un 30, mais il était très connu pour quelqu'un qui n'avait pas de spectacle. C'est-à-dire qu'il avait fait que 2-3 passages remarqués par le grand public, hein, je parle bien sûr.
Oui, il avait son spectacle quand même à la petite loge.
Oui,
c'est juste qu'il s'appelait pas Zèbre.
Mais c'est parce que c'est présenté comme une heure, pas comme un spectacle. Oui. Ouais, est-ce que ça compte?
Mais il a pas eu de suite. Enfin, je veux dire, il a mis du temps à le bosser. Enfin, il a eu des prix et s'est fait connaître beaucoup avec des sketchs juste et pas de spectacle. Là, il est pas encore. Enfin, son spectacle, il est sorti, je crois, juste avant le Covid et
son spectacle est très bien. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais il paraîtrait qu'il est très bien et ça m'étonnerait pas. Et pour avoir des amis en commun avec lui. Ça se voit pas, mais j'ai mis des guillemets.
Ça s'entend.
Ça s'entend. Pour avoir donc des amis en commun avec lui, il paraîtrait qu'il est très, très, très dur avec lui-même. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'était pas satisfait de son spectacle, même à la petite loge, apparemment, il n'était jamais trop satisfait de ce qu'il faisait. Alors que pourtant, c'est l'un des rares à faire tout le temps complet.
Est-ce que c'est pas un sentiment qu'on a eu tous ici autour de cette table de pas être satisfait soit de son spectacle, pour ceux qui en ont
Qui n'a pas de spectacle?
J'ai regardé Lola.
Qui c'est qui n'a pas de spectacle ici?
Tout le monde a un spectacle.
Ah voilà,
Lola est pas là, donc on s'en fout.
J'ai peur. Non, mais c'est même pour un sketch ou n'importe quoi, ce sentiment d'avoir eu. Enfin, de faire pas assez bien.
Mais à notre niveau, c'est normal. Moi, c'est l'inverse. À notre niveau, je trouvais ça, en tout cas moi par rapport à moi, de me dire « Ok, là, j'ai une pépite, c'est extraordinaire, je suis vraiment trop drôle sur ce sketch. » Genre, alors que j'ai joué devant personne, enfin, tu vois.
Mais en plus, là, lui, il a fait le plus dur, c'est-à-dire il joue à la petite loge, il fait venir des gens qu'il ne connaît pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai fait jouer qu'une seule fois, devant que des gens que je connais. Donc en fait, mon spectacle, il vaut rien en termes d'analyse parce que... En fait, c'est peut-être que ça se trouve, les gens, ils rigolaient pour me faire plaisir, tu vois.
Moi, j'ai pas rigolé pour te faire plaisir à ton spectacle. Hein.
Ouais, mais.
Entre nous, mais.
En soi, ça reste toi quand même. Dans le sens où c'est pas, c'est pas quelqu'un que je suis allé chercher dans la rue, qui est venu voir un spectacle et qui vraiment ne sait pas.
Tu vois, moi, j'ai plus peur du regard des gens que je connais.
Ah ouais?
Que du regard des gens que je connais pas.
Enfin, ils vont être plus bienveillants envers toi de manière générale. Tu vois, genre un pas 10, Il y a toujours une ambiance de ouf et parce oui. que...
Ouais, mais sur un spectacle, t'as vraiment un sentiment de déception si tu sens que t'as foiré.
Après, c'est vrai que je parle d'un truc que je ne connais
les
pas.
Gens... non, non, mais quand tu joues dans des gens, tu sais que t'as déjà joué avec nous et des fois, t'as merdé comme tout le monde. Genre, et tu le sens. Et je trouve que le plus dur, c'est le regard de... Bon, c'est bien, mais
après,
tu sais très bien
que... La différence que... Dans ma perception par rapport à la vôtre, c'est que moi, j'ai jamais joué pour des gens qui ont payé pour me voir. Parce que quand on va à votre spectacle ou à votre rente, on paye. Moi, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc, moi, on m'a payé à la fin pour les plateaux.
Ça, tu veux dire?
Mais du coup, je pense que la perception, elle est différente. Parce que même quand c'est des gens que tu connais, il y a un investissement plus fort que on est allé boire une bière au resto et puis on vous a regardé faire du stand-up.
Ouais, ça fait chier de recevoir des gens qui payent pour venir te voir. Tu te sens vraiment coupable.
Bah après, oui, c'est vrai qu'à la fin d'un spectacle, quand t'as tes meilleurs amis qui viennent te voir et qui te disent « c'était bien, mais vraiment ». Vraiment, c'était vraiment bien. Tu vois, qui insiste sur le vraiment, genre en mode. Oui, c'est vrai que je te dis souvent que c'est bien et tout, mais là, vraiment,
là,
c'était bien.
Heure,
tu vois.
C'est pas 10 minutes.
Genre là, vraiment, c'était bien. Donc, non, moi, je trouve que. Hein,
c'est gratifiant.
Ouais, mais je trouve que le regard des gens que tu connais est aussi important parce que, en vrai, c'est eux qui vont pouvoir te faire changer.
Oui, mais je trouve que c'est pas assez expérimental.
Ouais, mais je trouve que la vie a plus d'impact.
Oui, c'est vrai que ils te connaissent dans ta personnalité, ils te connaissent dans ce que tu as déjà fait sur scène et tout, mais vraiment sur le fait que quelqu'un vraiment se dise je ne connais rien de cet individu totalement et donc je suis à 0% quand il va me faire entrer dans son univers.
Après, je sais pas, moi j'ai déjà joué devant des gens que je connaissais pas, donc...
Ah oui, c'est vraiment... voilà. Pour ça, mais tu vois, t'as cette sensation que quelqu'un vient te voir, il fait « je t'ai jamais vu ».
Genre,
je t'ai jamais vu, franchement.
Igor bien. Et Igorette, vous voyez qui c'est ?
Ouais.
Voilà. Et ben Igor et Igorette, c'est des gens qui sont venus voir mon spectacle, que je ne connaissais pas. Je les appelle Igor et Igorette parce qu'il faut venir voir mon spectacle pour savoir pourquoi. Et c'est des gens, genre, ils sont tarpins gentils, genre, ils sont venus, ils me connaissaient pas du tout, ils ont vu mon affiche, ils venaient de s'installer à Nice, ils ont dit « tiens, on va aller voir un spectacle, ça va nous faire rencontrer des gens. » Et genre, ils se sont installés dans la salle et tout, ils étaient trop chauds et ils étaient trop cool. Et ils sont revenus voir mon 30 et ils reviennent de temps en temps à des plateaux. Et ils sont trop bien, trop gentils.
On se fait des amis avec ce métier, c'est ça qui est bon, quand on est seul.
Mais après, dans le truc du public, je pense vraiment que t'as... Enfin, ça dépend parce que, par exemple, en bar, quand c'est tes amis qui viennent te voir... Bah, tes amis, ils vont t'écouter parce qu'ils sont là pour toi. Quelqu'un, quand tu joues devant des gens que tu connais pas et qui sont même pas forcément là pour voir du stand-up, mais juste pour boire un coup, bah, tu dois aller les chercher d'une autre manière parce que déjà, faut avoir leur écoute. Et ensuite, en plus de l'écoute, faut l'attention vraiment qu'ils soient dans une démarche de rire avec toi et pas de toi ou en entendant. Enfin, du coup, la démarche, elle est hyper différente en ça.
Ouais, mais en attendant, c'est relou les gens qui parlent pendant que tu parles aussi.
Ouais,
faut
le dire.
Bah oui, c'est sûr. Non,
mais c'est un trop bon exercice. Quand tu vois, genre, moi, une de mes sensations préférées, c'était au Trafalbar. Il y avait un mec, il parlait fort, il parlait d'autres choses et tout. Et le début, et je m'enregistre toujours quand je joue. Et au début, on m'entend, sur mon téléphone qui était dans ma poche, on m'entendait moins moi que lui au fond du Trafalbar. Genre, parler, comment ça me rendait ouf. Et après, ça s'arrête et on l'entend juste dire. Et ça, cet enregistrement, je l'aime trop. Et il dit juste, elle est pas mal, elle. Et du coup, il écoute. Et à partir de là, genre, les deux premières minutes, il en avait rien à foutre. Et après, il m'écoute. Et je me dis, waouh. Et à ce moment-là, les 20 autres personnes qui sont dans le bar, je m'en fous royalement. Mais lui, je l'ai eu, genre, et ça.
Ça dégomme ça.
C'est marrant, ça. Genre, de réussir vraiment à convaincre, en fait.
Ah ouais, non, mais là, c'était une démarche, quoi. Genre, enfin,
c'était un combat.
Ah ouais, plaisir. Je te jure.
Juste, au niveau de Paul Mirabel, est-ce que vous serez capable de l'imiter, vous, maintenant, avant de commencer, justement?
Oui.
Moi, je suis une mauvaise imitatrice.
C'est ça qui va être drôle.
Moi, à part Claude François, j'imite pas grand monde, mais...
Genre, attendez, j'ai récupéré un peu de son texte. Fais-moi les trois premières phrases jusqu'à 14h30, là. Tu vois?
Moi, ça fait trop longtemps que je l'ai pas entendu, en fait, pour le refaire.
Mais ça va être drôle, en fait. C'est juste pour savoir à peu près qu'est-ce que vous en avez...
Jusqu'à 14h30?
Ouais.
J'ai honte.
Il vous écoute.
Salam les Roya. Récemment. C'est nul.
Non,
mais en fait, je trouve qu'il monte à la fin de ses phrases. Tu vois?
Même sa voix, elle est genre Salam les Roya. Enfin, sa voix,
elle est fluette.
Vas-y. On a eu un bon truc là.
Et n'empêche, je vous ai fait un rire. Hein.
C'est vrai.
Ah, je peux pas, je saurais pas le faire. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressée, donc je suis arrivée un petit peu en avance vers 14h30.
Ouais, bien le silence.
C'est bien. Il y a vraiment, ouais, on le verra plus tard, mais les silences sont assez bien respectés. Est-ce que je le tente ou pas?
Vas-y.
On tente. Toi, tu dois l'avoir.
Ah, putain, j'ai tellement bouffé son sketch, parce que c'est pour info, c'est moi qui ai... J'ai retapé tout son texte, donc en l'écoutant.
D'ailleurs, et si Paul t'en a besoin, sache quoi.
Ouais, voilà.
J'en ai un exemplaire, si jamais Paul tu Mirabel, de ton ordi.
N'hésite pas. Et t'inquiète, il est là. C'est la version du coup diffusée le 12 février 20.
Donc on le tutoie.
Bah oui, bah ça ouais. Va. Il est plus jeune que moi.
Oh,
alors ça fait. Là, il est de 95. Voilà, ça fait mal.
Ah non, mais il est plus vieux que ce que je croyais.
C'est un petit jeune. Salam les Rouya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Voilà.
Ton récemment, il est trop haut.
Oui, tout à fait.
Il est trop enjoué.
Mais par contre, t'as fait un truc qui fait, c'est les expressions faciales.
Ah ouais?
Ouais.
Je m'en souviens pas. Ouais, on a un point commun avec
c'est
Paul.
C'est pas très radiophonique, du coup, mais...
Je peux essayer? Salam les Rouya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit très énervé, « Toi, donne-moi ton téléphone. » Et moi, on m'a toujours dit que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. Donc j'ai tenté un truc, j'ai répondu... 06.
Voilà, vous voyez bien que Pablo suit toujours les consignes parce que j'avais dit jusqu'à 14h30, il a fait tout le truc. Non, c'est bien. Alors voilà, pour cet épisode, donc vous l'aurez compris, nous n'avons pas choisi n'importe qui et nous n'avons pas choisi n'importe quelle représentation non plus, car il s'agit du passage de Paul Mirabel au Montreux Comedy Festival. Petit extrait pour vous.
Salam les Roya.
C'est également le moment où je t'invite, toi, auditeur, à te rendre sur ton moteur de recherche favori et de taper Paul Mirabel, Montreux. Clique sur le lien adéquat et mets pause sur ce podcast afin de revenir une fois que le sketch sera terminé pour toi. Bisous.
Mais n'oublie pas de revenir.
Là, par exemple, si tu nous entends, c'est que t'as pas regardé la vidéo. Soit c'est pas très bien. Mon monteur, tu peux revenir en arrière du coup.
J'essaie de le faire en direct, hein, comme ça.
Salam les Roya. Récemment, j'avais rendez-vous avec une fille. On devait se voir à 20h. Moi, j'étais stressé, donc je suis arrivé un petit peu en avance, vers 14h30. Et tout s'est bien passé, sauf qu'à un moment de la soirée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit, très énervé, « Toi, donne-moi ton téléphone. » Et moi, on m'a toujours appris que l'humour, c'était la meilleure arme pour se défendre. Donc, j'ai tenté un truc. J'ai répondu, « 06. »
Alors déjà, petite question, est-ce que vous savez pourquoi ce sketch est si spécial? On en a un peu parlé avant.
C'est-à-dire spécial?
Le rythme? En quel sens?
Parce que c'est celle qui a eu le plus de vues.
Tout à fait, Sophia.
Ah, oui, d'accord.
Oh. Je suis une bonne élève.
C'est effectivement la vidéo la plus...
Un point de plus pour les HQ.
C'est ça. C'est effectivement la vidéo la plus vue de la chaîne du Montreux Comedy Festival. Et c'est également, enfin c'est déjà le premier artiste à dépasser les 10 millions de vues sur cette chaîne.
Putain.
Et c'est également, elle fait partie du top 10 des vidéos YouTube les plus populaires en France en 2020.
Wow.
Voilà.
Sartek Roya.
Et voilà, en tant qu'humoriste, c'est le premier humoriste de France sur YouTube en 2020.
Ah ouais, d'accord, ok.
Donc ça va. Et pour qu'on reste un petit peu dans les chiffres, moi j'ai prévu une petite séquence statistique que voici de suite après un petit jingle. Paul Mirabel est né le 29 novembre 1995, ce qui fait qu'il est plus jeune que moi de plus de 21 mois, le bâtard. Paul Mirabel, c'est actuellement 6 récompenses depuis 2018. Il a actuellement un spectacle intitulé « Zèbre ». Mais la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa prestation fin 2019 au Montreux Comedy Festival. Diffusée le 12 février 2020, elle comptabilise presque un an plus tard près de 14 millions de vues, ce qui équivaut à environ 13 980 000 de plus que moi.
Salam les Roya.
La plaçant numéro 1 des vidéos les plus vues du festival, et 10e vidéo la plus vue en France sur YouTube en 2020.
Elle était venue au rendez-vous.
Un sketch de 8 minutes 43, soit 523 secondes, parmi lesquelles un total de 55 rires, soit en moyenne un rire toutes les 9,51 secondes, soit près de 20% du temps. Également, ces 4 applauses franches et massives pour plus de 37 secondes, soit 7%.
Et enfin, Paul Mirabel, c'est 1261 mots, soit 2 mots et demi par seconde, ou 145 mots par minute. Sauf que... En vrai... Bah, Paul Mirabel, au Montreux, c'est aussi 249 secondes, soit 4 minutes et 9 secondes, de... silence. Tel que... Ou encore...
Tu peux arrêter, s'il te plaît.
Et ça, ça équivaut à près de 50% du temps. Comme quoi, la musicalité. Voilà. Voilà, premier point assez impressionnant.
Je pense qu'on aimerait tous avoir des analyses comme ça servies sur un plateau.
Ah, c'est bon.
J'ai intérêt à nous répondre.
C'est magnifique. Premier point que j'ai remarqué, moi, en analysant, en écoutant et en regardant à peu près 15 fois le sketch, donc je pense que sur les 14 millions de vues qu'il a maintenant aujourd'hui, j'en ai 1 million à moi pour avoir analysé ça. Et voilà, le premier truc que je me suis rendu compte, c'est que bah, son sketch, c'était 249 secondes de silence. Ce qui est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous, ça, vous avez tous des sketchs ici. Est-ce que vous voyez passer la moitié de votre temps à rien dire sur scène ?
Bah, je pense que là, surtout quand on commence le stand-up, sauf si on a déjà un univers très marqué, mais quand on cherche encore, un truc qui fait le plus peur, c'est le silence. Parce que quand t'es silencieux, t'es plus vulnérable. Et c'est souvent pour ça qu'on a des onomatopées de parce que justement, on a peur du silence.
Et pourtant, le silence, je sais que c'est drôle, quoi. Enfin, quand sais placer un silence, faut savoir le placer, faut pas qu'il soit malgré toi. Ça peut être hilarant.
Et après, il faut qu'il soit voulu, quoi. Parce qu'un silence, parce que t'as un trou, c'est horrible, par exemple.
Et voilà, quand on parle de Paul Mirabel, personne m'a parlé d'un gars hyper silencieux qui dit pas grand-chose, au final.
Non.
Enfin, on va capter un rythme lent, quand même.
Oui, hein. C'est un rythme lent, mais moi, je suis invité au Montreux demain. Merci de Montreux, déjà. je me dis pas... On me dit, t'as 8 minutes de sketch. Je vais pas me dire, je vais parler pendant 4 minutes. Je me dis, je vais essayer de placer toutes mes vannes et genre aller un peu plus vite pour pouvoir...
Mais parce que justement, c'est le délire de... Tellement le silence, c'est drôle quand c'est bien placé que c'est du... Alors, je sais plus si c'est du non-jeu ou du jeu, mais qu'au final, ta blague... Enfin, le silence, c'est une blague. C'est pas parce que c'est pas écrit. Enfin, tu vois ce que
je veux dire ? Ouais, c'est ça. En fait, il joue vachement dessus. Enfin, c'est la première analyse que je fais, donc j'ai pas d'autres référentiels, mais 50% du temps à rien dire.
Mais il dit des choses en rien disant, c'est ça.
En fait, il laisse le temps entre sa prémisse et la chute de sa vanne, ce qui est super intéressant pour le public parce que du coup, ils peuvent se faire leur propre vanne dans la tête et après, ils se rendent compte qu'en fait, le mec est allé plus loin que ce qu'ils se sont dit.
Tout à fait.
Et je pense que c'est là aussi la force de Paul Mirabel.
C'est en ça que les silences, c'est fort quand c'est bien amené. Par exemple, quand Monsieur Fraise, il a fait un sketch où il parle pas ça, et pourtant, il en dit des choses. Tu vois ce que je veux dire ?
Ah oui, bah
il... Et du coup, c'est ça qui est fou. C'est du silence, qui arrive jusqu'à notre cerveau, quoi. C'est pas genre pourquoi il parle pas.
C'est vrai que j'ai pas pensé direct à Monsieur Fraise, mais c'est en fait c'est le seul que j'ai vu en fait rien dire pendant un sketch. Il avait eu placé, je crois, une phrase à peine.
J'ai soif. C'est le sketch bref.
Il y a un truc qui est fou, c'est je pense que c'est il y a un profond travail dans le sens où par exemple Paul Mirabel, il y a beaucoup de vannes. Comme il y a beaucoup de silence, on a le temps de réfléchir à la chute et on l'a, mais on sera toujours surpris de comment il va la dire et du coup on va en rire. Et je pense que le silence est vraiment maîtrisé parce que on a toujours tous tendance pour cacher la chute d'une vanne pour pouvoir l'amorcer rapidement pour faire qu'elle est impactante, c'est-à-dire rapidement pour pas que du coup on laisse le temps aux gens de l'avoir en nous. Lui, même avec ses silences, en fait. Peut-être des fois on s'attend à ce qu'il va dire, mais on imagine mille choses qu'il pourrait dire, et sa manière à lui de le dire va enchaîner le rire, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Mais à la fois, ça te fait que, comme il y en a vraiment plusieurs des silences et tout, ça te fait pas tout le temps dans le silence, t'es dans la réflexion. Parce que je me dis, peut-être ça nous fait ça à nous, parce qu'on écrit des blagues et on joue, de se dire, oh silence, ah c'est ça qu'il va dire, mais je sais pas si... Pour les moldus, mais pour un public moins averti au stand-up ou qui s'initie au stand-up avec Paul Mirabel, si pour lui le silence c'est synonyme d'analyse, comme nous on peut le percevoir.
Si, donc, je pense, parce que tu réfléchis, tu te dis...
Nous oui, mais est-ce que quelqu'un réfléchit en regardant du stand-up?
Bah, moi ça m'est déjà arrivé que des gens que je connaisse pas me disent « Ah j'ai adoré cette vanne et tout, je m'attendais trop à ce que tu dises ça et au final t'as dit ça ». Donc oui, je pense que le public... En fait, je pense qu'aujourd'hui, en 2021... Voilà, on sait l'année qu'on est. Je suis désolée. Et ben, je pense que les gens sont hyper éduqués au stand-up, beaucoup plus qu'avant.
Oui, c'est sûr.
Ah ouais, on maîtrise, enfin, le public maîtrise plus les ficelles. Mais du coup, c'est super intéressant parce que Paul Mirabel, justement, il s'en sert vraiment. C'est-à-dire qu'il laisse le temps, comme tu disais, d'analyser. Pour le coup, les gens vont analyser sa vanne. Et il y a beaucoup de moments où il y a des rires avant la vanne. Genre vraiment où il laisse son silence, il fait sa prémisse, il laisse son silence, ça rigole, il fait la vanne attendue, comme tu disais Pablo, et après il réenchaîne, il y a un nouveau rire, et il réenchaîne derrière sur un peu plus loin. Je sais pas si j'en ai une là.
Genre une survanne, c'est ça que tu veux dire?
Ouais.
La vanne du tourniquet.
J'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices, je cours, je saute, là le coach me dit « Monsieur, calmez-vous ». Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport.
La grande force, quand même, qui est ouf, c'est le personnage est tellement assez installé que même, du coup, une prémisse va être drôle. C'est-à-dire qu'elle va dire, bah, du coup, quand je vais en boîte, elle va dire, je vais en boîte, les gens vont rire.
Oui, c'est ça.
Il a juste dit qu'il allait en boîte, tu vois. Non, parce que tu sais qu'il va lui arriver un truc de fou.
Quand il dit, ouais, je fais la sécurité dans la boîte, il a tellement bien installé son personnage que tu dis ouais ok, enfin un mec comme ça il se fait bouffer, en fait les gens ont déjà l'image du mec qui se fait bouffer à l'entrée et après il le dit en disant bon bah voilà, si je lui dis non tu rentres pas et qu'il me dit si, il rentre.
Mais bon, tu vois,
bah,
les gens
il rentre,
les gens rigolent déjà à, si je lui dis tu rentres pas,
oui voilà,
et ils ont compris, ils rigolent, c'est ça. Mais ils vont quand même enchaîner un rire à la suite, donc c'est ça qui est forcé. Il accepte que les gens peuvent comprendre la vanne quand il l'installe. Mais il arrive à étonnamment faire rire aussi à la suite.
Ouais. Est-ce que c'est pas ça le métier d'humoriste au final ? C'est d'aller plus loin que ce que le... Enfin, tout le monde peut être drôle. Genre, tout le monde a ce genre de vanne. Et en fait, malgré... Enfin, moi, je pensais que c'était hyper simple ce qu'il faisait. Lui, dans son texte, il parle pas de sujets hyper mirobolants, tout ça. En fait, il va vraiment plus loin que le commun des mortels.
Ouais.
Genre, il te laisse à la voir et il va vraiment chercher lui...
Je sais pas s'il va loin ou s'il va à l'essentiel.
Ouais, mais il va à un truc auquel tout le monde pense pas.
Parce qu'au final, si tu remets à hauteur, il dit juste ce qu'on pourrait avoir une conversation entre potes avec un personnage dans l'équipe de potes comme lui, il est sur scène, donc un peu fragile, entre très gros guillemets. Bah, au final, c'est juste ça ce qu'il met en scène, tu vois, c'est juste... Et il ne fait pas dans ses phrases, il ne fait pas de « vous avez remarqué tatati » et tournure de phrases compliquées pour amener un point et tout. Genre, il va direct à l'essentiel. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas juste enlever genre toutes les fioritures de blablabla qui, un, nous rassure, deux, pose du contexte dont tu n'as pas forcément besoin ou des trucs comme ça, pour que lui, il aille juste...
Et pourtant, il commence son sketch par « récemment ».
Ouais.
Oui, mais parce qu'après, tu es obligé aussi.
non,
oui,
mais... c'est un truc... C'est un truc très stand-up.
Bah après, il fait du stand-up, donc j'ai envie de te dire...
Ouais.
Oui,
non,
tant mieux.
Dire,
il est dans les codes, quoi.
Il est au-dessus, ne serait-ce qu'en termes de stats, il est au-dessus des autres. Pourquoi lui marche à 13 millions de vues et pas les autres?
C'est de la nouveauté, quand même, parce que c'est une nouvelle forme. Justement, souvent, les stand-uppers, ils vont enchaîner, Lui, c'est vraiment... c'est silencieux, quoi.
Ouais.
C'est silencieux, ça prend son temps. C'est du regard. Et c'est vrai que ça, c'est une forme qui n'existait pas avant, surtout...
Et surtout, il fait un truc qui marche très bien, c'est qu'il fait de l'autodérision. Chose que tout le monde n'est pas capable d'en faire parce que.
Tout le monde n'a pas son physique. Enfin,
oui, non, mais voilà.
Chance,
déjà, non, mais c'est vrai. Non, mais
j'aimerais trop avoir une coupe de vieille chanteuse.
Non, mais on n'a pas tous la chance, entre guillemets, d'avoir un physique duquel on peut se moquer nous-mêmes. Enfin, tu vois.
Il se sert vraiment de ses atouts, en fait. Enfin, il
oui,
sait
ça.
Très bien ce qu'il
est. En fait, il est simple dans la complexité.
Et il le met en avant.
Non, il est complexe dans la simplicité.
Mais après, ce qui est dangereux, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça c'est un truc, mais en soi, il arrive justement avec ce mouvement d'autodérision qui prend beaucoup de place en ce moment en stand-up. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de mini-Mirabel qui arrivent. Plein de mini-Mirabel qui font leurs défauts, tac, 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 tac. Oh,
j'aimerais trop qu'un jour on dise, ouais, c'est le mini-Sophia Benyaya.
Non, mais tu vois, genre, en vrai, c'est pas forcément, ils sont pas inspirés de Paul Mirabel parce qu'il arrive en même temps que tout le monde, mais c'est celui qui s'est affirmé dans tout ce tas-là. Là, on est dans le moment de l'autodérision.
Ouais, mais lui, c'est crédible. Enfin, moi, c'est ça qui
crédible.
Me choque, c'est que bon, on connaît tous des gens, enfin, pour avoir croisé des humoristes ou quoi, des humoristes qui essaient de faire un sketch qui se base sur,
sur ah moi je suis pas costaud, ah moi je suis pas beau.
Alors qu'il est costaud le
alors
mec.
Il n'est pas forcément. Enfin, Paul Mirabel, il joue vraiment sur ça. Enfin, tu peux lui trouver plein de points positifs.
Ouais. Sa veste, elle est incroyable. Excusez-moi, ouais, non, mais je.
Il est stylé.
Je fais une petite pause mode.
Mais... Il est coiffé, même s'il dit le contraire et il joue sur ce côté cheveux longs, tout ça. Mais en fait, il a plein de points positifs. C'est juste qu'il arrive vraiment à te les faire oublier.
Mais.
Il est plutôt beau, hein. C'est un beau mec, hein.
Ah ouais, enfin, mais dans tout son sketch, il joue toujours sur le. Il est pas incohérent, genre il y a pas un moment où il va être beau gosse.
Mais c'est compliqué l'autodérision.
C'est dangereux. Je trouve qu'au bout d'un moment, si tu gardes trop un personnage, est-ce qu'au bout d'un moment, quand le phénomène passe, il faut pouvoir se réinventer, parce qu'en fait là pour l'instant il joue un personnage d'identité. Mais imaginons, moi j'ai vu plein de sketchs à lui. Au bout d'un moment, en fait tu comprends le personnage, tu comprends l'univers, et peut-être que t'aimerais le voir sur autre chose. Comme si tu le vois sur un sketch avec plein d'autres humoristes. S'il peut ne pas parler et faire oui, t'aimerais le voir aussi sur de l'extravagance, pas forcément l'extravagance, mais sur autre chose.
Ouais, en dehors de sa zone de confort. Mais après, il est peut-être, enfin, tu vois, moi je le connais pas du tout, c'est peut-être pas son clown, hein.
Ouais, justement, peut-être il va me surprendre sur des trucs autres, tu vois. Mais justement, moi, c'est justement la question que je me dis, c'est est-ce qu'au bout d'un moment, c'est dangereux d'avoir une identité comme
Attends,
ça.
Qui m'a dit ça la dernière fois? Je sais plus, mais. Alors apparemment c'est pas son clown, hein. Je pense qu'il est vrai, enfin il se rapproche plus de cette personne là dans la vie de tous les jours que de quelqu'un d'autre, tu vois. Je pense qu'il se ressemble beaucoup sur scène.
Ouais,
je pense pas qu'il soit quelqu'un de totalement différent.
Après
parce qu'apparemment un jour il a dit que s'il avait dû choisir un clown, ça aurait pas été celui-là.
Ah ouais.
Ouais.
Ben en tout cas mais voilà.
Mais je sais plus qui m'a c'est dingue de j'ai des infos, trucs comme ça, mais j'ai des infos à moitié genre d'après Wikipédia.
Genre moi, si on le voit dans un film, par exemple, ce serait stylé qu'on le voit sur autre chose.
Ouais, mais je pense que ça arrivera. Faut rappeler qu'il a commencé, entre guillemets, l'humour. Je pense qu'il en a déjà fait un peu avant. Il a vraiment commencé en 2018. C'est-à-dire que, grosso modo, en même temps que nous. Enfin, en même temps que moi, en
le
tout cas.
Le bâtard.
Non, mais je veux dire, c'est hyper récent. C'est-à-dire qu'il a vraiment trouvé un premier clown, au final. Enfin, ça reste
le
grand public, c'est le clown de Paul Mirabel, oui. C'est ça. Mais oui, je pense que...
Non, pour le grand public, Paul Mirabel, c'est ça. Il n'y a pas de clown pour le grand public. Enfin, on te voit comme tu es sur scène.
Oui, oui. Mais je pense que dans 5-10 ans, déjà, il aura plein d'autres projets. Inch. Mais, il sera sûrement... On lui proposera autre chose. Je veux dire, il ne peut pas s'arrêter à ça. Au même titre que tous les humoristes qui sont un peu plus vieux maintenant ne se sont pas arrêtés à juste leur premier amour, leur premier sketch drôle, quoi.
Je suis sûre que nos enfants, ils écouteront Paul Mirabel.
Et parce qu'après, quand tu fais ça, de toute façon, et encore plus avec nos générations, Internet, les réseaux et tout, tu te crées une communauté. Et après, selon le degré de communauté, ils te suivent, peu importe ce que tu fais. Donc, si demain, il a envie de courir en slip sur scène, s'il a une communauté bizarre. Fidèle, ils vont...
Ouais, mais est-ce que ça lui ira bien? Est-ce que tout le monde... Moi, je suis pas sûr de suivre s'il court tout nu.
Ah non, je sais, mais
ça dépend comment il le fait.
Forcément lui,
oui,
ça.
Non, non, bien sûr.
S'il faut, il va le faire. Tu vas faire putain.
Ah oui, non mais.
Waouh.
Bizarrement, je suis pas d'accord de ce que tu dis parce que je trouve que aujourd'hui, justement, les communautés, elles sont méga éphémères parce qu'avant, t'avais des gens qui jouaient plein de personnages, plein d'identités. Aujourd'hui, t'as plein d'identités individuellement et d'un moment, tu suis un phénomène et puis maintenant, il y a d'autres phénomènes et il y a tellement d'humoristes vraiment que du coup, on suit des générations d'humoristes. Mais pour se démarquer, pour pouvoir perdurer dans le temps, il faut se réinventer parce que comme il va y avoir plein de Mirabel derrière, lui, il aurait été le précurseur, mais il faut qu'il soit précurseur d'une nouvelle chose, tu vois. Je trouve que c'est encore plus dur de faire vivre une communauté aujourd'hui, avant qu'elle se taille.
Ouais, mais il a eu de la chance de faire un buzz, je pense, au final, quelque part. Enfin, ça a été vraiment... la vidéo du Montreux, ça a été une révélation pour...
Après, vu la maîtrise aussi, dans tout le cas, vu la maîtrise fait que, évidemment, quand t'as rire comme ça...
Après, ça parle sûrement à beaucoup de monde aujourd'hui aussi, enfin, ce qu'il dit.
Pas si Et en plus, c'est hyper intergénérationnel, parce que, enfin, moi, ma mère, elle me l'a envoyé par WhatsApp, et elle m'a dit « Regarde ce petit, il est rigolo !» Ma mère, elle dit ça, quoi, tu vois.
Ouais, mais c'est ma tante aussi, qui vit au Maroc, m'a parlé de Paul Mirabel. Elle m'a dit « Ouais, j'ai vu un mec, je sais pas si tu le connais, parce que, bon... nos familles s'imaginent qu'on est trop dans le game alors
ouais,
pas du tout, tu vois. Non mais voilà.
Je sais pas si t'as entendu parler. Qui connaît Paul Mirabel.
Non mais c'est-à-dire que ma mère, pour vous donner une idée, quand je lui ai dit que j'allais jouer à Paris, au Printemps du Rire, voilà, elle m'a dit, ah, tu vas faire le Jamel Comedy Club? Parce que pour elle, oui, c'est genre la référence. Tant que tu n'as pas fait le Jamel Comedy Club, tu n'existes pas. Tu vois? Donc à chaque fois que je lui dis, je vais jouer ailleurs qu'à Nice, elle pense que je vais jouer au Jamel Comedy Club.
C'est marrant. Bah, Inch, un jour, ce sera vraiment
non, mais la dernière, fois, elle m'a dit, la dernière fois, elle m'a dit, bon, quand est-ce que Jamel vient voir ton spectacle? Je lui dis, bah, ce n'est pas prévu. Non, mais c'est ça, genre, bon, voilà.
C'est marrant parce que du coup, Paul Mirabel, est-ce que vous l'associez au Jamel, vous? Parce qu'il a fait le Jamel, c'était l'année dernière, je crois.
Bah ouais, mais il a fait la mauvaise année, en fait, confinement. Mais non, je l'associe pas au Jamel.
Tu parles de ta mère qui te parle vraiment du Jamel. Enfin, maintenant, c'est des troupes.
Mais la troupe, elle est moins marquée qu'aux premières saisons, tu vois. Parce que même aux premières saisons, ils avaient... Bon, là, après, je crois qu'ils ont eu une petite tournée en troupe, là, j'avais vu. Donc voilà, mais genre, les premières saisons, il y avait vraiment plein de projets autour de la troupe du Jamel Comedy Club. Genre, quand il y avait l'Inside Jamel Comedy Club, il y avait... Enfin, ils faisaient des trucs en duo entre eux. Il y avait vraiment plus un esprit troupe.
Et aux premières saisons, il y avait que ça.
Oui, en plus.
Il n'y avait que ça qui faisait du stand-up. Donc, si tu voulais voir du stand-up, ben...
Ouais, t'avais pas le choix.
T'avais pas le choix, en fait. Tu regardais le Jamel Comedy Club. Enfin, oui, mais c'était le truc, tu vois, populaire.
Maintenant, en fait, tu peux être... et c'est ça qui fait bien aussi, je trouve. Mais comme plein d'humoristes maintenant, c'est un peu une vibe un peu plus indé, genre... je fais mes sketchs et puis voilà.
Quoi. Ouais,
ouais, il underground. Plus, il va un peu plus là-dedans, je trouve que...
Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'est pas hyper actif sur Insta, il ne fait pas des vidéos, il ne fait pas masse de stories. Enfin, juste, il est là, il bosse, il fait sa vibe. Et...
Mais c'est marrant parce qu'on croit vraiment que c'est
l'inverse. Après, j'en sais rien, peut-être pas du tout. Mais...
Je veux dire, on a tous envie de développer tous nos réseaux, en mode, même si moi, par exemple, je ne suis pas fan de mettre ma vie sur Insta, mais je me dis à des moments que pour commencer à se faire un peu connaître, ça va être un passage obligatoire. J'essaie de trouver une vanne par jour où je me filme face cam. Mais lui, visiblement, il ne le fait pas.
Mais la performance, elle est que... comme il est efficace par un travail en amont, et les passages qu'il a fait ont été importants. Il a fait le Montreux, première ascension. Il a fait le passage chez McFly et Carlito, deuxième grosse ascension. Et du coup, il a fait public de Montreux et public YouTube. Et du coup, boum, ça l'a monté. Maintenant, tout le monde le connaît un peu par deux passages. Et il n'a pas besoin du coup de faire 1000 vidéos par jour.
Oui, mais tu vois, avant, il aurait pu être tenté. Avant de faire Montreux, avant de faire... à partir du moment où il était le meilleur étudiant de France ou quoi. Il aurait pu être tenté de faire... Après, je sais pas, peut-être il leur faisait et il les a supprimés. Je suivais pas avant.
De quoi, des vidéos?
Ouais.
Enfin, après, il y a des gens, c'est pas leur truc.
De développer un Insta ou quoi.
Non, plus c'est pas cohérent avec le perso, au final. Genre, il est pas...
Non, mais c'est en ça que c'est intéressant, parce que... On nous répète souvent, développer vos réseaux sociaux, votre communauté.
Ça me gonfle.
Moi aussi, je déteste ça.
Ça dépend comment.
Ben oui, mais là, tu vois... Non, mais on nous le dit dans le sens, faites des vidéos, filmez votre vie, enfin, tu vois, des trucs comme ça, que maintenant, il y a vraiment cet esprit de réseau.
Faites des podcasts.
Alors que... alors qu'à la base, c'est juste faire des blagues sur scène, et comme si juste faire des blagues sur scène, ça suffisait plus, bah maintenant, t'as beaucoup de... Après, peut-être parce qu'à Nice, c'est un espèce de microcosme, c'est petit, c'est loin de tout, donc on nous dit, t'es obligé de développer pour pouvoir réussir derrière.
Je suis même pas sûre, je pense que vraiment, les réseaux, ça a fait exploser des gens, tu vois.
Oui.
Vraiment,
oui,
genre Inès Reg par exemple.
Ouais, mais c'est assez éphémère au final. Enfin,
moi je la connaissais avant qu'elle fasse sa vidéo des paillettes, mais en vrai, il y a plein de gens qui ont découvert Inès Reg grâce à ce truc, alors que ça faisait 5 ans qu'elle faisait déjà du stand-up, ça faisait 5 ans qu'elle rodait son spectacle, elle avait déjà fait le Jamel Comedy Club. Enfin, tu vois, c'était pas personne en fait dans le monde de l'humour. Mais moi, ça m'emmerde, en fait. Hein. Je vous le dis vraiment, mais comme je le pense...
Parce que Sophia, au début, avant d'enregistrer ce podcast, elle m'avait dit « Moi, j'ai envie d'être un peu bienveillant, j'ai pas du tout envie de dire des trucs... »
Non, mais après, c'est des choix de carrière.
Je parle personnellement.
Parce qu'en plus, moi, je suis hyper cliente. Moi, je veux pas le faire parce que moi, j'aime faire des blagues sur scène et pas sur Internet. Et qu'en plus, j'aime pas produire ce genre de contenu. Mais par contre, je suis hyper cliente.
Moi aussi,
vidéos,
j'adore.
De Jordan Rotella ou des gens comme ça et tout sur Insta.
Genre Tristan Lopin, je suis fan. Uniquement pour ses stories, hein, je le dis.
C'est ça qui est. Tu vois, après, ça va avec le personnage. En fait, le plus important, c'est quand t'as ton personnage, tu vois ce qui te plaît. Par exemple, Lola, toi, tu kiffes mettre des vibes sur Instagram. Parce qu'on dit des vibes, parce que je voulais être stylé, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en gros, tu vas mettre des photos et tout, et je trouve ton Insta, il est hyper cadré, il est joli, tu vois, t'as des nuances et tout. Et t'en as qui vont faire tous les jours un truc, genre, aujourd'hui, publication.
Oui, mais ton Insta, il est pas pro. Enfin, il est hyper perso.
Je pourrais être une étudiante qui fait pas du tout stand-up, quoi.
Justement.
Mais c'est ça que j'aime bien, parce que j'aime bien l'idée de me dire, alors peut-être c'est la pire strat de com ever, tu vois.
Non, je pense
mais de
pas,
me dire, il y a des gens, ils vont me suivre parce que je fais des trucs un peu vintage et tout. Ils vont dire, parce qu'ils aiment bien le vintage, ils vont dire, oh tiens, elle fait du stand-up, bah je vais regarder le stand-up. Mmh. Et pas qu'ils vont venir parce que je fais du stand-up et qu'ils vont.
Ouais.
Après, mon Instagram est vraiment pas si ouf que ça. Donc...
Mais, non, mais regarde, moi l'Insta que j'adore, c'est celui de Marina Rollman. Bon, j'adore Marina Rollman aussi, mais son Insta, je le trouve vraiment très très beau. Et il n'y a pas que du truc. Enfin, je crois que la seule chose humour qu'elle partage, c'est ses chroniques sur RTL. Mais sinon, c'est.
T'as fait du contenu, généralement.
Ah, bien sûr, on n'a pas tous du contenu RTL.
Mais on a servi sur un plateau.
Ouais, on a servi sur un plateau bientôt. Mais tu vois, des fois, franchement, on fait. Par exemple, la dernière fois, j'ai voulu faire une vidéo qu'on a montée ensemble avec Paul. J'avais filmé ma mère. Bon, c'était tarpin drôle. Enfin, moi, ça me faisait trop rire, tu vois. Et je l'ai envoyé à mon manager, et mon manager, il m'a répondu: ouais, c'est mignon. Et du coup, bah, je ne l'ai pas publié parce que je me suis dit, non, je n'ai pas envie que les gens se disent c'est mignon, en fait. Tu vois, mais c'est comme tout. Genre, il y a plein de gens qui veulent monter à Paris pour tester. Pour moi, Paris, ce n'est pas du test. Pour moi, Paris, tu montes quand tu es béton. Il y a tellement d'eau là-dedans. Si, admettons, les humoristes ont été des gouttes, j'ai pas envie d'être une goutte parmi toutes ces gouttes, quoi. Genre,
c'est ça, on attend.
Après, si tu es une goutte bien placée, tu vois, tu peux très vite progresser aussi. Et après, c'est tout le truc que. Mais ça se fait de plus en plus, et dans plein de domaines, que ce soit dans la musique, dans les vidéos, dans le stand-up ou quoi, que Paris, ça se démocratise et que ça s'étende aux autres villes, et que t'es plus besoin justement d'être dans une goutte parmi un océan à Paris, et que tu peux vivre les mêmes galères plus de manière plus rigolote à Nice parce qu'on est moins nombreux, tu vois.
Bah, c'est ce qu'on essaye de faire à Nice, tu vois, mais...
Ça marche bien.
Après, franchement, par rapport à quand on a commencé et tout, on a 15 000 plateaux de plus, hein. Bon, pas maintenant. Là, on est dans le creux, là. Clairement, on a envie de jouer.
Mais là, par exemple, on aurait pu être hyper tenté, même pendant le confinement, de faire des vidéos sur Insta, de se lancer.
Mais moi, je suis tentée, hein. Ça me dégoûte pas. Mais j'y arrive pas.
C'est vrai, mais toi, t'en fais, Pablo, donc tu peux donner un autre...
Moi, je vais en faire... En fait, bon, on va dire, je n'ai pas beaucoup fait
même
non plus.
Pendant
hein.
le confinement, t'en as fait, là.
Dans l'idée, j'ai envie d'en faire. Mais comme tu dis, j'ai pas envie d'en faire pour en faire, parce que après c'est aussi, enfin attention, mais les réseaux, c'est l'image que tu renvoies, et si tu fais du contenu pour faire du contenu, ça va se sentir. Alors c'est sûr que c'est là justement que tu crées déjà des communautés éphémères, parce que tu réponds à un besoin, mais pas forcément t'es pas créatif, tu vois. Donc après, l'idée, comme tu dis, c'est de trouver un truc qui te fait plaisir, qui fait que quand tu fais une vidéo, tu fais pas juste pour l'intérêt des réseaux.
Ouais, c'est ça.
Moi, c'est le format qui me dérange, les vidéos type story, ça m'intéresse, mais pas du tout. Parce que c'est le côté éphémère, c'est le côté pas travaillé, c'est le côté... C'est très bien, en fait, quand t'as un perso d'installer et que tu t'en sers pour vraiment développer ce perso. Genre, tu te mets dans la police, t'imagines
genre,
un flic...
Oh, comment il s'appelle on a regardé son entrée la dernière fois, j'aimais trop, qui fait... Oh, il avait fait Ondar. Continue de parler, ça.
Émeric Lompré.
Merci, Émeric Lompré.
Oh, j'adore.
Ces vidéos, elles me font délirer, genre...
Mais parce que là, il a son perso.
Mais parce que c'est lui, enfin, c'est lui qu'on
c'est dans
sur scène, quoi.
Ouais. C'est dans son perso qu'il joue comme ça. Et pareil pour Tristan Lopin.
Ah, mais alors les vidéos de Tristan Lopin, pour moi, elles sont exceptionnelles.
C'est lui, hein, mais c'est son personnage qui est dans, fait, c'est un personnage. Il va pas arriver et raconter sa matinée comme tout le monde, c'est-à-dire en mode des fois tu te lèves cette mauvaise poil, ça il le fait pas. C'est vraiment le perso qui compte.
Ah ouais.
Et c'est toujours le même perso au final qui joue.
En plus, sur ça, il y a aussi beaucoup de. Alors ça, c'est l'algorithme qui fait, et aussi en plus maintenant, de tout va très vite, mais il faut avoir une régularité. Quelqu'un qui va poster tous les jours ou deux fois par semaine va être plus vu et plus... Enfin, c'est une vraie discipline, quoi.
Oui, en fait, c'est ça. Mais du coup...
Si t'en fais tous les 8 mois, t'en fais pas, c'est pareil.
Mais du coup, ça dépend du public que tu cherches. Nous, je pense qu'on essaye tous d'avoir des gens qui aiment bien ce qu'on fait, mais pas juste un public de réseaux sociaux. Enfin, si tu suis l'algorithme, c'est-à-dire que c'est les clients d'Insta, de Facebook, tout ça, qui vont te suivre, et pas tes potentiels clients à toi.
Ah oui.
Et ça, enfin, clients.
Oui, je
suis. On dirait marchand de tapis.
J'ai un problème avec Instagram, c'est que j'aime bien avoir un feed cohérent. Donc, non, mais c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. En ce moment, je suis dans le jaune, tout ça. Hein. Et en fait, je me dis, si je fais une vidéo qui ne va pas avec mon feed, bah, ça va me gaver, en fait. Je vais vouloir la supprimer. Elle peut être tarpin drôle, mais je vais vouloir la supprimer.
Ouais, mais là, rien ne t'empêche de faire un second compte avec le contenu vidéo, par exemple.
Ouais, mais la flemme, quoi.
Ah oui, je suis d'accord.
Après, Franchement, c'est, déjà, faut comprendre, c'est une, carrément une autre matière. Hein. T'en as qui sont bons là-dedans. Bon, moi, je faisais con, mais Younes Depardieu, je sais pas si vous connaissez.
Ouais, ah ouais.
Ce mec, il est.
Ah, il a fait mon premier confinement.
Ah, mais lui,
avec son
mais
micro, là, il m'a dit.
C'est un génie parce que, en fait, il est tout simplement fait pour être dans des situations dans la vie et faire rire les gens.
Ah, oui, mais tu vois, c'est pas un humoriste de scène.
Genre, ah, si
ah oui, il fait de la scène.
Non, mais je, enfin, non, mais, je veux dire, genre, moi, je le connais pas en tant qu'humoriste de scène.
C'est Younes de Younes et Bambi.
Ah bah, tout le monde le connaît en tant qu'humoriste de scène.
Non, oui, c'est pas Younes de Younes
si,
et Bambi.
Younes et Bambi se sont divisés.
Ah, ok.
Et du coup, maintenant, il y a Samuel Bambi et Younes Depardieu. Bambi, c'est le mec de Clique, mais Younes, il a pris un autre parcours. Bambi, c'est connu maintenant parce qu'il est en stand-up, il est performant.
C'est marrant parce qu'on parle depuis tout à l'heure. On s'est totalement éloigné de Paul Mirabel parce qu'on parlait d'un truc qu'il ne faisait pas. Et je trouve ça bouffe.
Oui, mais.
En fait, qu'il fasse se questionner sur ce genre de trucs.
Tout ça, justement, pour dire que moi, du coup, qui suis pas dans le délire de faire des vidéos sur les réseaux pour me promouvoir et pour percer, ça me rassure quand on entend à longueur de journée. Mais si, faut le faire parce que c'est comme ça que tu vas réussir. Bah, quelqu'un qui le fait pas et juste par son travail et par son acharnement et son talent, il réussit, bah, t'es en mode. Ah, ça va.
Après, pour moi, il fait partie de ces gens, tu sais, des légendes. Genre, il y en a un tous les 10 000 ans. Tu vois, le mec, il a 24 piges, il perce de ouf. Genre, ça devient un des meilleurs humoristes de France.
Oui, mais tu vois, par exemple, moi, il y a des humoristes que je kiffe sur scène et j'aime pas du tout, en vidéo. Tu vois, genre. Comment il s'appelle ?
On se réfère beaucoup à toi, Paul, pour les noms.
Ouais,
ouais. Comment il s'appelle ?
Dylan ?
Non, le mec qu'on a vu au Summer Tour.
Ahmed Sparrow ?
Non.
Hakim Jemili, Rezo Bouyaraba.
Romane Fraissinet, je l'adore sur scène.
Oh, mais j'adore ses stories.
Je pourrais regarder son spectacle toute la journée, je pense. Il parle devant moi, je le regarde toute la journée. Mais j'aime pas ses vidéos. Enfin, j'aime pas, je t'aime bien, Romane, hein, c'est pas.
Non, mais lui est plus dans le vrai. Sur scène, il est dans l'absurde. Dans ses vidéos, il est dans le vrai. Tu sais, genre, c'est le mec.
Excuse-moi, Mouloud, j'avais pas le temps d'être dans l'émission parce que je suis à Montréal en ce moment.
Tu as très mal fait, si je peux me permettre.
Mais je mettrai un filtre et je mettrai lui qui le dit.
Oh,
du
ça.
Coup, c'est pas bien de dire ça. Il se fait très bien, Roman.
Mais non, mais c'est après, chacun, sur Redon Bougaraba, qui lui, c'est un mec, il y a du bagou.
Oh, j'adore.
Dans story,
j'aime
il a
tout
du
le
bagou.
Monde, c'est pas vrai, il y en a que j'aime pas, mais Redon,
il va
j'adore.
À Dubaï, il va rencontrer des gens, il va savoir qu'en allant lui parler, il va faire une story, alors du bagou, il va être extraordinaire. T'en as qui sont moins excentriques, je sais pas si c'est comme ça. À l'époque, on avait des Ramzy, des Eric Judor, des Jamel qui allaient dans des plateaux, ils prenaient de la farine, des œufs, ils cassaient tout et c'était le bordel et tout. Cette génération-là, elle existe moins aujourd'hui, maintenant.
C'est une question problématique que je me demande dans ma tête. C'est sans aucun jugement sur qui que ce soit ou quoi, c'est vraiment genre. Mais est-ce que quand ça passe à faire des stories, des trucs comme ça, où du coup, t'es moins ton personnage et les gens sont plus amenés à t'aimer toi que ton travail, c'est pas le truc des différents de vouloir être une star, entre guillemets, ou juste faire ton travail, ta passion de monter sur scène, genre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oh ouais.
Parce qu'au final, il y a peu de gens qui vont dire, par exemple, quelqu'un qui va pas aimer quelqu'un qui voit juste sur scène, il va dire, moi je l'aime pas, mais j'aime pas. Ça veut dire, j'aime pas son travail, c'est pas lui. Mais quelqu'un qui se filme tout le temps et tout, si t'aimes pas cette personne-là, tu l'aimes pas sa personne, genre.
Ouais, ou ce qu'elle montre, enfin, sa façon de voir aussi le truc. Moi, je suis plus intéressé par des gens qui vont écrire. Ils vont te faire un spectacle et pas forcément. Je regarde personne sur les réseaux. Enfin, les grands humoristes, de temps en temps, je dois en avoir un ou deux. Mais en vrai, je regarde pas les stories, je les passe parce que je m'en fous.
Mais parce que est-ce que c'est pas du coup dépasser le truc de vouloir être plus que humoriste ou stand-upper, mais être vraiment star. Enfin, mais
influenceur.
Aimer pour sa personne plus que pour son travail.
Je suis pas sûr que ça transcende les gens qui font des stories et qui marchent beaucoup sur ça. Transcende de le temps, quoi.
Oui,
que dans 10 ans, on se souviendra peut-être pas d'Inès Reg, tu vois. Si derrière elle assure pas en disant j'ai un bon spectacle et qu'elle bosse bien, c'est pas son buzz. On dira il y a eu le buzz d'Inès Reg comme il y a eu le buzz de Camini.
Mais j'ai pas la réponse à ma propre question, mais c'est si maintenant on suivait pas plus les gens pour leur personne que pour leur travail, quoi.
En France, le problème c'est que tout le monde veut donner son avis, c'est insupportable. Genre, par exemple.
C'est non. Juste ce qu'on est en train de faire.
Non, mais là, c'est devenu les grosses
vraiment,
têtes.
Ouais, mais c'est bien sûr.
Je vais recentrer.
La valise RTL.
On donne notre avis sur Paul Mirabel. Non, mais c'est vrai, on donne notre avis sur Paul Mirabel en espérant qu'il va se dire, je suis curieux de le savoir et tout. Mais quand je dis donner son avis, c'est sur le. Là, on donne un avis professionnel sur ce qu'il fait parce que ça nous intéresse, ça nous passionne.
Moi, je cherche pas à essayer de donner un avis sur Paul Mirabel. Moi, très honnêtement, au début, j'aimais pas trop. Genre, je me dis, mais. pourquoi lui ça marche.
Attends,
alors
non, mais
que
non, non, c'est pas t'aimer pas, c'est ça t'énerver.
Oui, non, mais parce
c'est
que.
C'est plus
mais...
dans ce sens-là, non.
Soyez honnête.
Il est plus drôle, putain.
Non, mais je veux dire, c'est pas que tu restais comme ça en mode c'est pas drôle.
Ah, non, non, c'est plus genre, ça m'interloque. Pourquoi et pourquoi lui oui, marche voilà, alors que. C'est ce que je disais, le fond est. Pff, il parle de sa vie, mm-hmm. il a aucun.
Ce qui est la base du stand-up.
Il a aucun but, ouais, mais il a aucun but, aucune cause à défendre. Et moi, je.
Mais t'es pas obligé. Enfin, ça,
non,
c'est.
Non, mais c'est ça. Mais c'est en ça, je ne donne pas mon avis sur ce qu'il fait parce que ce qu'il fait. Dans l'analyse, quand je regarde le truc, techniquement, c'est super.
Puis c'est tellement
moi,
subjectif un avis en plus.
Des fois,
oui,
on
non,
dit,
en plus
le nôtre. Des fois, on me dit, ouais, non, mais il est bien. De... Tu vois, j'ai un sketch sur la bûche et on me dit, ouais, non, mais il est bien ton sketch sur la bûche, mais qu'est-ce que tu défends ? Mais rien, je
oui,
défends
non,
rien.
Non, mais
et alors, j'ai le droit,
non,
quoi.
Mais
genre,
en fait, je voulais pas m'arrêter à mon avis de base sur Paul Mirabel, c'était que, bah, je me suis dit, il y a une raison, tu vois, je veux pas juste m'arrêter sur le fait que j'aurais pu juste dire, bah, Paul Mirabel, bah, j'aime pas.
Mais c'est comme l'autodérision, tu vois, là, il en fait super bien. Après, t'as certains humoristes qui font de l'autodérision, mais c'est chiant parce que ça devient de la genre une séance chez le psychologue, quoi. Tu vois, ils sont là, genre oui, je suis mal dans ma peau.
Après, tu vois, ça dépend vraiment aussi de ce que toi t'aimes, parce que moi, je sais que j'aime beaucoup. Alors là, voilà, je ne sais plus du tout son nom, mais il y a un special d'un humoriste en anglais, je sais pas s'il est américain ou anglais, sur Netflix, où à un moment. Ça devient presque une conférence, tu vois ce que je veux dire ? Et j'adore ce moment-là dans les spectacles.
Oui, mais je suis d'accord, sur un spectacle. En fait, sur un spectacle, tu peux t'accorder...
Ah, tu parlais genre en plateau ?
Moi, je parle en plateau.
D'accord.
Sur un spectacle, tu peux t'accorder, un quart d'heure, 20
moi,
minutes, même si tu veux.
J'adore presque t'as envie de pleurer, quoi.
Voilà, mais moi, j'adore. Moi, dans mon spectacle, j'ai fait en sorte qu'il y a un moment où c'est pas du tout drôle, tu vois. Mais c'est le but, c'est recherché. Mais par contre, quand t'es sur un plateau, les gens ils viennent pas.
C'est court hein, de mettre un moment.
Il y en a, c'est tellement malaisant qu'ils viennent juste se confier en fait. T'as l'impression qu'ils viennent juste se confier et qu'ils viennent juste dire coucou, ça va pas quoi.
En tant que public, quand ça me fait ça, vraiment quand je suis pas. Parce que des fois je me mets en mode stand-up où vraiment, même si c'est très drôle, je rigole pas, mais t'es dans la suranalyse tout le temps, tu vois. Mais des fois, si je me mets vraiment en mode public, juste je veux passer un bon moment, les humoristes qui font ça. Vraiment dans ma tête ça fait ouais et si le ouais et il est pas complété par soit parce que t'avais une blague qui était drôle soit un propos qui m'a touché c'est vraiment genre
next.
Bah, écoute ouvre ton journal intime et écris cher journal
mais voilà. C'est ça en fait voilà enfin t'as l'impression que dès là tu dois
mais
accuser leur décharge
dur, hein.
Émotionnelle enfin non mais tu vois
c'est bon quoi
genre excuse-moi mais je suis pas là pour ça en fait je suis là pour rire pour consommer de l'humour fais-moi rire. Ça fait un peu bouffon du roi de dire ça et tout, mais c'est vrai, quand tu montes sur scène...
Ou apprends-moi quelque chose à la limite, quoi.
Voilà. C'est-à-dire, soit défends un propos, défends-le de manière un peu drôle, genre le passage de Swann Périssé que j'ai regardé hier au Montreux où elle défend le viol, mais de manière très drôle. Il est génial, ce sketch, allez le voir. Soit t'as juste envie de raconter ta vie, comme le fait très bien Paul Mirabel, et c'est drôle. Mmh. Par contre, tu viens pas sur scène pour dire « Oui, bonjour, voilà, j'ai une vie de merde, et puis
ça, c'est parce que
j'ai grossi en ce moment. »
Il y a pas de blague dedans. Mais en soi, tu prends le même propos et tu fous des blagues dedans, c'est drôle.
En fait, j'ai trouvé le pourquoi moi ça me...
C'est la manière, en fait.
J'ai trouvé le pourquoi moi ça me dérange, c'est parce que, pour moi...
Pourquoi toi, ça te dérange ?
Non, mais ça me dérangeait à la base, parce que, en fait, le fait de raconter sa vie, sans, si c'est drôle, c'est cool. Mais en fait, si, comme tu dis, tu peux pas raconter, dire j'ai une vie de merde. Pour moi, il faut qu'il y ait un peu d'imagination. Tous les sketchs d'avant, de quand j'étais petit, qu'on regardait, même si tu prends du Eli Kaku qui refaisait les profs, déjà ça parlait parce que c'était nos, on l'a tous vécu, on l'aurait vécu.
Ouh wow. On allait le vivre.
On allait le vivre, merci Sophia. Non, on allait le vivre, mais je veux dire. C'est de l'imagination. Enfin, je dirais, il n'était pas en train de raconter un truc que tu fais tous les jours. Là, il refaisait un personnage. Mais en fait, dans le stand-up, moi, ce qui me fait chier, c'est quand on raconte un truc qui a pas de personnage vraiment. C'est vraiment en mode, je suis allé à la salle, c'était cool. Tu vois, genre, ou même deux, trois vannes et derrière, il n'y a pas. Je sais pas si vous voyez
oui,
ce que
je veux. Je cherche un contre-exemple dans ma tête, mais je trouve pas de nom. Mais moi, au contraire, ça peut faire que si, il y a de la blague, etc. J'aime bien, genre, juste. Les gens. Après, je sais pas pourquoi, là, j'ai aucune ref en France, j'ai que des refs outre-mer. Mais, genre, vraiment chill, ils arrivent. Comme si tu parlais à un pote et c'est juste eux et t'oublies presque les autres gens qui sont autour.
Farid ?
Eux et toi.
Pff.
Non, il a grave un personnage, Farid. Hein. Dédo, bah, grave Dédo.
Ouais,
t'as l'impression que t'as un pote devant toi, quoi. Et pourtant. Mais après, lui, il a une identité très forte aussi.
Mais après, c'est deux matières différentes. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que les très bons stand-uppers sont aussi de très bons comédiens. Ça, j'en suis persuadé, parce que pour normalement, c'est aussi Mirabel, ses silences, ils sont maîtrisés et ils sont joués. C'est pas juste un mec qui fait des silences. Mais en tout cas, des dos, la faculté qu'il a, qui est différente d'un show qu'on peut avoir d'un Ikaku, d'un Emelé, n'importe qui, c'est qu'il arrive à faire en sorte que le public est tellement à l'aise avec lui et a tellement l'impression d'être intégré à une discussion que chaque fois qu'il fait une vanne, c'est pas que du rire, c'est aussi du « ah ouais, ok, moi j'ai envie de parler ». Il arrive à créer ça. C'est, en fait, c'est beaucoup de médiation, le stand-up.
Il n'y a rien de mieux, franchement, quand tu fais une vanne, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vient te voir après et qui te dit « putain, mais genre, tu vois, quand tu dis ça et tout, mais je me suis dit, mais c'est tellement vrai. » C'est, tu vois, d'arriver à capter ce moment que et de le rendre drôle, ce moment que tout le monde vit, on ne s'est jamais dit « ah, c'est marrant », tu vois. Genre, par exemple, la première vanne qui me vient, je ne sais pas pourquoi, mais celle de Gad Elmaleh quand il dit quand tu sors de la salle de bain après ta douche et que tu re-rentres dans la salle de bain avec tes chaussettes. Tu vois, c'est un truc que tout le monde fait tous les jours. Enfin, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Et tu te dis, putain, c'est drôle. C'est drôle, alors que moi, je le vis tous les jours et je ne me suis jamais dit, oh, ça ferait une bonne blague, tu vois.
Ouais.
Et c'est ça, je pense, qui fait un bon humoriste. C'est un mec qui arrive à analyser ce qui vit tous les jours.
Aussi, après, parce que c'est ça, c'est le truc d'observation, mais quelqu'un qui fait des blagues sur l'actualité qui peut être très drôle.
Ah oui, oui, bien sûr. Non, oui.
Justement, enfin, très dangereux.
Remarque, il entend la nouvelle et toi, tu dis non, c'est pas drôle, et lui, il te fait rire avec la guerre. Genre.
L'anecdotique, il est, je pense qu'on l'a tellement eu avec les one-man shows, l'anecdotique, c'était la puissance des Gad Elmaleh de trouver ce qui nous... des petites manières, mais je pense que du coup, aujourd'hui, l'anecdotique, il est plus suffisant.
Mais c'est pas forcément anecdotique, c'est juste trouver le twist, tu vois,
ouais.
le truc qui va, comme dans un plat de cuisine, tu vois, le truc qui va, régaler tes papilles, tu vas dire, putain.
Pour moi, ça passe par un perso, et ça me fait revenir juste au sujet, c'est qu'en fait, Paul Mirabel, j'ai compté dans les stats de son sketch, il y a presque 26 lignes de dialogue, en vrai. C'est qu'on dirait pas comme ça, mais il fait jouer des persos beaucoup, donc la moitié c'est de lui, en gros c'est lui qui répond, donc son personnage de un mec un peu bizarre, tu vois. Et le reste du temps c'est les autres qui parlent, il fait jouer tous ces personnages qu'il rencontre.
Il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit très énervé, « Toi, donne-moi ton téléphone. » J'ai répondu, « 06 ». Si un jour je suis vigile et que je dis à quelqu'un, « Non, toi tu rentres pas. » Et qui me dit si je rentre, et je dis au kebabier.
Ça attend aussi sur celle-là, genre. J'ai entendu plein de gens avant lui sur scène dire comment on dit un mec qui travaille au kebab, un kebab machin, un truc. Hein. Et la manière dont il le dit, c'est hyper drôle.
Mais ça,
genre,
c'est des vannes qu'on se fait entre potes. Et quand tu sais comment dire quelque chose, tu dis on va le dire comme ça. Tu vois. On a tous inventé des mots.
Oui, c'est pour ça. Et là,
oui, genre la retirette, la machine où tu reviens l'argent, le distributeur. Moi, j'appelle ça une retirette.
Et là, il m'a dit je suis désolé, je t'ai mis sur SketchUp, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le kebabier, il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Tu peux arrêter, s'il te plaît, t'arrêtes. Ou j'appelle mon petit frère, qui m'a dit, il y a quand même une petite différence sur la photo. Après, tu as les cheveux beaucoup plus longs. Et elle m'a dit, donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. Je lui ai dit, madame, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion.
Mais en fait, il raconte son sketch comme si il était autour d'une table avec des potes et qu'il te racontait l'histoire. Genre, moi, je vais te dire, putain, tout à l'heure, je suis allée au supermarché, genre, je suis arrivée, la caissière, elle m'a dit bonjour, quoi. Mais voilà, mais je vais pas
conscient.
Le jouer.
Oui, mais il est conscient, voilà, que toi, t'as pas l'image et il te recrée l'image quand il le fait.
Oui.
Il fait ça pour tous les persos. Et en général, bon, il a deux persos, lui et les autres, qui les gens normaux. En fait, il parle très normalement quand il fait ses persos d'autres personnes. Et quand c'est lui, il parle avec son rythme à lui.
Oui, il n'est pas dans la caricature de l'autre, en fait. Il est vraiment dans la caricature de lui-même.
Mais c'est pour ça qu'en fait, oui, c'est du stand-up, Paul Mirabel, mais en vrai, il fait apparaître énormément de personnages. Il n'a pas une palette d'expression digne d'un one-man.
Le stand-up n'empêche pas les personnages. Bah, non, Jamel qui imite sa grand-mère, c'est un personnage.
C'est pas forcément du stand-up. Hein. Là-dessus, il est très stand-upper.
Ouais, tu viens de choquer Lola.
Non, mais de sa manière de s'adresser à un public, mais c'est des one-man qu'il fait. C'est-à-dire que quand il fait Joey Star et tout, c'est une différente forme, mais le stand-up, c'est vraiment que tu t'adresses
tellement pas d'accord.
Ah ouais?
Ah, pour moi, Jamel, c'est du stand-up.
Ah non, c'est vrai qu'il a.
C'est la France. Ça veut rien dire, le stand-up.
C'est le stand-up à la française.
Je sais pas c'est quoi la vraie définition. Oh là, je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas ce que c'est la définition.
Non, mais maintenant, pour moi, c'est vraiment un micro, un public, et tu parles direct face public. C'est l'autre jour, j'ai fait ça.
Pour Google, le stand-up, c'est un genre de spectacle né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, au cours duquel un humoriste s'adresse au public directement, sans accessoires ni personnages, d'une manière spontanée, quasi improvisée, spectacle de ce genre. Du coup, la vie quotidienne est l'un des thèmes de prédilection des stand-uppers.
Du coup, à part le... En gros, il a des persos.
Mais tu peux pas... Mais non, Paul. Faire une enclave et dire « oui, il m'a dit, ouvrez les guillemets », c'est pas faire un perso. C'est, tu vois, il est pas en mode...
Il est
pas
en mode
sketch.
Voilà, genre le kebabier, il le fait pas avec un accent
non,
ou
parce
avec...
Que c'est court, mais il se permet quand même des enclaves de toc, je place un petit perso.
Après il joue, ça, mais le stand-up n'empêche pas de jouer.
De toute façon, maintenant, c'est un mot valise, et puis ça a tellement évolué, il y a tellement de genres qui se sont développés de tous les côtés sur la scène et dans l'humour, que c'est dur de mettre une case sur ce que c'est. Même nous, peut-être qu'on dit qu'on fait du stand-up, mais peut-être le stand-up, c'est plus ça.
C'est un phénomène. C'est en vrai, parce que...
C'est pour ça que moi, je dis que je fais du one, comme ça, au moins, c'est réglé. Tout le monde sait ce que
moi,
c'est.
Moi, je parle dans un micro.
Bien, maintenant, on fait de l'humour, c'est
moi
ça.
Aussi.
Enfin, on fait des blagues.
Mais
oui, voilà, c'est,
de manière différente.
Puis en plus, ça se transforme tellement. Maintenant, les gens, ils font des vannes dans des parcs style stand-up. C'est, quand tu dis, moi, je fais du one man, bah, je te vois pas dans un... C'est bizarrement. Par exemple, si tu dis, moi, je fais du one man, bah, je te vois pas dans une... dans un plateau, comme le plateau a été référencé stand-up, tu vois. One man, c'est vraiment, t'as ton spectacle.
Pour moi, déjà, one man, t'as genre un micro cravate, genre un micro casque, tu vois.
Mais vous nous voyez comme des yeux, en fait.
Comme un show.
Non, mais comme quand on doit jouer pas de micro. Sans micro, j'ai l'impression de faire du théâtre,
mais
du stand-up.
Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que le stand-up, t'es censé, contrairement au one, t'es censé pouvoir le jouer n'importe où, dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire qu'on te pose dans un parc. Si on te met un micro pour que les gens t'entendent.
Mais alors pourquoi tu peux pas faire un one dans un parc?
Mais parce que.
Parce qu'il y a la lumière, le son.
Il y a des lumières. Enfin, moi, dans mon spectacle, il y a mon texte et moi qui fait rire, mais il y a aussi. Il y a des jeux de lumière, il y a des sons, il y a des. J'ai besoin d'accessoires, j'ai besoin de. Enfin,
fun fact, surtout, Paul Mirabel a fait le cours Florent. Ce qui n'est pas une école de. Enfin, c'est une école d'acting. Enfin, c'est d'acting de.
Mais
de,
il joue. On ne dit pas qu'il joue pas. Mais je te.
Ouais, c'est pour moi, c'est. Le truc important dans le stand-up, c'est de savoir raconter, savoir jouer. Il y en a qui sont plus à l'aise et il y a des autodidactes très forts qui racontent très facilement. Enfin, on en connaît tous un mec qui va te dire raconte-moi ta journée, il va te la raconter et ça va être hilarant.
Demain, tu prends le texte, de Paul Mirabel, tu le donnes à un mec qui passe dans la rue comme
ça.
À part s'il a un talent inouï ou à part si tu tombes sur un comédien par hasard.
Tu peux toujours faire mieux en travaillant et en
surtout,
apprenant.
Et surtout, tu te prends une amende parce que tu n'as pas le droit de jouer le texte de Paul Mirabel sans son consentement. Ça, c'est
tu prends pas une amende, tu lui payes des droits d'auteur. C'est qui, à mon avis, doivent être élevés. Voilà. Mais bon. Après, t'es pas obligé de faire soit du one, soit du stand-up. Tu peux faire un mélange des deux, comme beaucoup de gens.
Dire au final.
Ouais. Tu prends les trois spectacles qui sont autour de cette table là.
Il n'y a aucun qui fait du
stand-up. Dans son spectacle, il n'y en a aucun qui fait du stand-up pendant une heure.
Je serais très curieux d'aller voir le spectacle de Paul Mirabel, mais je suis pas sûr que ce soit du stand-up à tout moment.
Non, il n'y a pas de quatrième personne. C'est pour ça que je dis les trois spectacles autour de la table. Tu prends Pablo. Pablo, il fait du stand-up, mais il fait aussi du. Et encore, je trouve que toi, tu as le. Même sur plateau, t'as le tu fais plus de one que de stand-up sur un plateau.
Mais tu vois, après ça tout c'est bon, moi des fois j'aime bien juste être en mode je parle.
Oui.
Puis après c'est puis tout comme c'est en constante évolution, ça veut rien dire. Après il y a des puristes, c'est-à-dire qu'il y a des gens tu vas regarder Bill Burr, il va pas faire d'accessoires et tout, il va juste de là.
Petit tabouret et puis ça y va.
Petit tabouret, même pas tabouret, c'est vraiment il se met devant comme ça, il fait et tac, il enchaîne.
L'équivalent de Bill Burr en France, c'est peut-être Anne Romanoff, quoi. Enfin, c'est...
Moi, je trouve que les deux sont
compatibles.
Ah oui, bien sûr.
Sont hyper compatibles et se servent.
Mais c'est dommage de faire que du stand-up. Des fois, c'est. Si t'es dans la. En fait, chacun son univers, chacun son truc. C'est con, mais. Non, voilà, exactement. Et je pense que justement, moi, c'est Paul Mirabel, il définit une forme de stand-up français. Et j'espère qu'on va le voir sur d'autres choses. Moi, j'aimerais bien voir au cinéma ou sur des sketchs. Quand il a fait le gala du Jamel, c'était intéressant de le voir sur des courts-métrages, des sketchs écrits. Quand il a fait la parodie de Validé, c'est intéressant, tu vois.
Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Parce qu'en vrai, ça fait longtemps qu'on tourne. Tu vois, genre,
j'avais encore envie de parler.
Mais on peut en parler toujours, mais...
Non, mais je plaisante.
Enfin, on va peut-être s'arrêter sur la chronique de Pablo. Pablo, t'avais peut-être prévu une petite chronique à propos de Paul Mirabel. Enfin,
tu veux la fasse maintenant ?
Bah, on la fait maintenant.
En gros, concept est simple. Je sais qu'à l'époque du Moyen-Âge, il existait des humoristes. L'humour existait hein, dans toutes les époques. Et je voulais savoir si l'humour de Paul Mirabel au 5e siècle était encore d'actualité. Donc j'ai essayé d'adapter son sketch à l'époque. On va voir. Jadis, j'allais à la Brune avec une jouvencelle. On devait se voir à la nuitée. Moi, j'étais trouillé, donc j'étais stressé. Donc je suis arrivé prestement vers 14h30. Et tout s'est bien convoyé, sauf qu'à un moment de la nuitée, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a baillé très violentement. Donne-moi ton messager. Et moi, on m'a toujours jacté que les galéjades, c'était le meilleur attrapoir pour se guerroyer. Donc j'ai tenté un truc, Esteban du 06. Du coup, je n'ai plus de messager. J'ai fleuré que je ne faisais pas bonne chière, bonne ripaille physiquement. Autant se vaut, et je sais qu'avec le corps de jouvenceau que j'ai, il y a des besaces que je ne quérirai jamais dans ma vie, comme garde de festivité nuptiale. Je sais que si tantôt je suis garde de festivité, et que je dis à quelqu'un « Non, toi, tu ne trousses pas », bon, bah si, il trousse.
Si, ça marche.
C'est comme, là, partant, je vais à la bonne pitance, à base de mouton, et je dis au pitancier « Mets-moi sauce poularde ». Et là, il m'a dit « Je suis désolé, je t'ai mis sauce vinasse, tristeusement ». Je lui ai dit « Monsieur le pitancier, vous avez une dague à la main, vous êtes plus joyeux luron que moi. Franchement, non, ce n'est pas triste. Je vais pas quérir ma vie pour de la sauce poularde ». Voilà, c'était un sketch adapté du Moyen-Âge.
Je pense qu'il rigolait bien.
Et je pense qu'il aurait fait carton.
Ça marche.
Tu vois problème. le... Bon bah, non.
Trousse.
Oui, il rentre.
Il trousse.
C'était quoi le truc?
Oui, il trousse.
Oui, et bah, je pense que c'est vraiment la construction de la vanne qui est bonne. Parce que même avec un mot que je ne comprends pas, bon, j'ai compris que ça s'apparentait à rentrer, mais ça fonctionne.
C'est fou, hein.
Comme quoi, des fois.
Je vous ai préparé un petit jeu. Du coup, je vous ai fait des phrases d'humoristes moyenâgeux.
Oh putain.
Et vous devez trouver à quel humoriste ça appartient.
Et on doit retrouver la vanne ?
Vous devez retrouver la vanne et donc l'humoriste. Okay. Avec, s'il vous plaît, quand vous le trouvez, un nom un petit peu moyenâgeux.
Ah.
Par rapport au sien. Si, alors, il y en a qui vont être faciles. Puis ça. Je viens de la province. Je convoie du tiers-monde de la Gaule. Je convoie d'un tout petit fief. Je convoie d'Augustoritum. Et pour ceux qui n'audissent pas Augustoritum, c'est un tout petit fief où il est interdit de bouter. Parce que si tu boutes à Augustoritum, bah tu sors du fief, quoi.
Wow.
Si, si, mais attends, je l'ai, mais...
Ça me dit quelque chose aussi.
Ah oui.
Sans gros, tu peux la répéter ?
Je convoie du tiers-monde de la Gaule. Je convoie d'un tout petit fief. Je vais le faire avec la... je convoie du tiers-monde de la Gaule. Je convoie d'un
c'est
tout petit fief. Je convoie d'Augustoritum. Et pour ceux qui n'audissent pas Augustoritum, c'est un tout petit fief où il est interdit de bouter.
Enfin, Jimouchka.
Parce que si tu boutes à Augustoritum, bah tu sors du fief, quoi. Par rapport à Limoges, pour ceux qui ne connaissaient pas. Voilà, c'était...
une vanne de Jimo.
Jimo le deuxième du nom.
Jimo le deuxième.
Attention, deuxième. Faut que je déconfie la mouture de fou du roi. Parce que c'est violentement difficile le jour d'hui. Le jour d'hui, les gens qui fleurent le vestibule, ils ont tous un truc à défendre, une cause. Et moi, j'ai que du guignon. Je suis pas inceste, je suis pas gueux, j'ai pas la peste ou le choléra. Je suis pas vilain ou barbare, je suis une donzelle blanche, mariable, consommatrice d'hypocras.
Blanche, Dame Blanche Cardin.
Dame Blanche Cardin.
Bien vu. Attention. Tu es l'étendard de la merdaille de Jouvenceau. Ton drapeau, c'est un phallus avec une main dessus. Tu audis ? T'as plus de divinité. Moi, partant, quand j'escagassais dans la vie, j'avais mon grand-père de principauté qui baillait. Nous, on a fait les croisades avec Frédéric II, roi de Jérusalem. Tu jouais avec tes plus, t'allais compter ta dîme. Ah...
Ah, c'est dur, ça.
Stand de peur ?
C'est un... C'est un des bons en ce moment, mais un ancien.
C'est pas genre Madénian, des trucs comme ça ?
Non.
Elie Semoun ? Si t'avais dit Elie Semoun, il était bon, maintenant.
Il dit... non. Il dit t'as rien vécu, dans son sketch. T'as rien vécu.
C'est...
Samélia ?
Le Caplan ?
Petit branleur. Non, c'est...
Bigard ?
Fabrice Eboué.
Ah oui.
Dans son sketch, au Montreux. J'en ai deux autres, vous voulez ou pas ?
Oui, tant qu'à faire.
Celui-là, il est dur. Par matin, on m'a conchié de nobles lurons jacteux de la cité. Je crois que j'ai réussi ma devinance. Moi, je m'entaille pour les sans-culottes, parce que Louis XVI, oh Louis XVI, qu'est-ce qu'il est beau. Je suis pas en train de crander qu'il a remis en randonnion ma sexualité. Si je le croise dans un château, et c'est possible, je connais le roi. S'il me dit « Oh, folle dingo », moi, je fais « Arrête !» Oh, je pourrais rougir.
Charlet ?
Non.
Non, c'est pas Charles Soignon.
Non, c'est un homme parce que c'est Macron normalement le mec.
Oui.
J'ai pas la réponse.
C'est une meuf, c'est une meuf.
C'est un mec.
C'est un mec. Et
les sans culottes, ça peut être une équipe de foot, pour donner un indice. C'est Farid.
Ah.
Quand il fait l'air fort, on m'a traité de bobo parisien prétentieux. Je crois que j'ai réussi ma vie. Je sais pas si vous l'avez eu. Non.
Non.
Et il m'en reste deux finalement. Celui-là, on va dire qu'on en a déjà parlé. Au moment du mariage, quand tu piétonnes à l'église pour dire oui ou oui, bah prestement j'ai fait une découverte étrange sur ma donzelle. Prestement j'ai découvert que le prénom de mademoiselle, ce ne fut point son prénom. Tantôt elle s'appelait Guenièvre, mais par malaventure, la nuitée du mariage, le prêtre baille « Monsieur Arthur, voulez-vous épousailler pour Jouvencelle ou Moule ?»
Ah,
c'est Hakim Jemili.
Bien
joué. Sire Hakim Jemili. On l'a vu.
Sire Hakim Jemili. Et le dernier, bon, il est dur, mais si vous voulez aller montrer, vous allez trouver. Un parchemin écologique dit que la dîme la plus écologique, c'est de ne pas avoir de garnement. Cela représente 40 pèlerinages transméditerranéens en côte de CO2. Pour ceux qui n'ont pas de géniture, sachez que vous pouvez convoyer 40 fois à Jérusalem en charrue, guerroyer des chameaux en patache, diesel, vous êtes plus écolo que les marmots familiaux.
Attends, juste un truc. Pourquoi il y a Jérusalem dans toutes tes balles?
C'est la croisade. J'avais pas... Au niveau des époques, j'ai pas...
Est-ce que c'est parce que ça te fait penser à Mathusalem?
Ah, c'est pas Jérusalem qui font la croisade?
Non, mais quand tu dis ça date de Mathusalem, tu dis pas ça date de Jérusalem, tu le sais.
Ah non, j'avais pas.
Oh putain. Ok.
Ah, merde.
C'était juste une parenthèse, je voulais juste savoir.
Bon, celui-là, il est dur. Parce que,
bonjour, c'est... Oui, il est trop dur.
Celui-là, c'est Sir Vizorek. Qui fait ce sketch au Montreux. Voilà, c'était...
Ouais, je jouais très bien.
Ouais,
c'était très, très drôle. T'aurais pu en faire une de nous.
Bah, alors, je me tâtais à en faire une. Et, c'est celle que j'ai, en fait, que j'ai vue, que je l'ai écrite en normal et je l'ai pas fait. C'était une de Eddie Portman, d'ailleurs.
Bah, merci.
Juste, on rappelle aux spectateurs, on va faire tourner un chapeau à la fin du podcast. N'hésitez pas à nous donner...
Voilà, non, mais en vrai, premier degré, c'était trop cool de parler stand-up et tout, parce que ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas eu une longue conversation comme ça. Parce qu'en général, ces conversations-là, on les avait genre quand on faisait des réunions d'écriture ou quand on faisait des... Tout ça allait bien. Ou quand on... Après des plateaux et tout. Et ça remet dans une dynamique qui est cool.
Tout à fait, ouais. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'avais prévu vraiment de m'axer vraiment autour de ce qui est du sketch. Mais c'est trop cool, en vrai, juste de détendre le truc. C'est un prétexte.
Oui.
Bien sûr.
Tu n'es qu'un prétexte, Paul. Départ,
donc, ouais, c'est un petit épisode pilote, donc ce sera peut-être le 0-0 au final.
Oh, appelle le moins 1, allez là.
On l'appellera moins 1 pour Lola.
Pour qui?
Pour Lola.
Qui ça?
Le moins 1.
Mais qui est Lola?
Ah oui, attends.
Parce qu'on m'a coupé au montage.
Je sais pas, il parle d'une meuf qui s'appelle Lola.
Lola même sur Instagram.
Est-ce que vous voulez dire un petit mot déjà?
Bah, c'était très agréable. Bah, non, j'allais répéter ce que j'allais dire.
Bah, c'est bien.
Et si jamais, enfin, sur un petit. Je sais, bon, sûrement que les gens qui vont écouter cet épisode moins seront des gens de Nice et des amis à nous. Mais en tout cas, genre, si vous venez d'ailleurs de Nice et si on vous dit il y a du stand-up à Nice, ouais, dites oui, parce qu'il y en a.
Voilà. Voilà. C'est très bien. Pablo?
Moi, non, j'ai rien.
Non, rien, c'était cool. Mais non, c'était cool, c'était sympa. Effectivement, ça fait plaisir de parler de stand-up parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué.
Ouais, on ne sait pas trop où le monde, où la vie va nous mener dans pas longtemps. Mais voilà, quoi qu'il arrive, merci de nous avoir écoutés si tu as tenu jusque-là. Et n'hésite pas à aller voir donc, la page Insta de chacun et de voir ce que tout le monde fait parce qu'en vrai, on est 4 potes.
Dans le vent.
Certains. on ne plagie pas Seb Mélia.
Et si t'as écouté jusque là pour nous le prouver, commente j'ai du coca dans le slip et j'adore ça.
Et juste dans les commentaires, mettez bien j'ai entendu Lola, elle n'a pas été coupée au montage. Mais je suis sûre que j'étais là.
Franchement, si je me choque, je fais un épisode
sans Lola.
Je fais l'épisode moins 1 sans Lola. Et l'épisode 1 avec Lola.
C'est là, c'est le sans moi qui perce.
À chaque fois, il y a un moins 1 autour avec une personne en moins. N'hésitez pas surtout à aller suivre de l'humour, du stand-up, du one-man, tout ce que vous voulez dans votre ville, où que vous soyez en France et de Navarre. N'hésitez pas à vous renseigner s'il y a des petits jeunes, parce que des fois, les petits jeunes, ce sont les pépites de demain. Comme nous, par exemple.
Puisqu'on est les étoiles montantes.
Voilà, on est les étoiles montantes de Nice, en espérant que Nice perce un jour dans la France entière. Voilà, n'hésitez pas à suivre un peu sur les réseaux. Lola Mam, Pablo Caillot, Sofia Benyaya et Paul Verdier.
Et quand vous venez nous voir avec le code promo servi sur un plateau. Peut-être que vous aurez un truc.
Voilà, pierre offerte. Je m'engage.
Voilà,
si je vous connais pas de base, hein, parce que si je vous connais dans la vraie vie, vous voulez me servir sur un plateau, ça va. Hein.
Et c'est le premier arrivé, premier servi. Un par plateau.
Premier servi sur un plateau.
Premier servi sur un plateau. On se répète, hein, on va refaire l'outro.
Bah bisous quoi.
Ouais, bisous.
Pour finir, monteur, un petit salam roya de Paul Mirabel.
Salam les roya.
Il y a des mots qui me font marrer, je sais pas pourquoi. 12 est pour moi me fait rire.
On n'est pas là pour rigoler, mais pour faire rigoler.
Tu t'en fous parce que t'es personne.
Pas bien, il fallait pas le faire.
Et ben, tu vois, moi j'ai plus peur du regard des gens que je connais que du regard des gens que je connais pas.
Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup.
Pour du stand-up, genre c'est fou.
Je pense qu'on aimerait tous avoir des analyses comme ça servies sur un plateau.